BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs. Tous les jours, à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi, c'est sur BFM Business. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes vendredi 28 juin 2024. Au programme de l'émission, un bilan boursier. Que faut-il retenir des 6 premiers mois sur les marchés? Quels sont les gagnants et les perdants? Et comment se présenterait le semestre à venir? Analyse de François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, à suivre. À 10h30, votre dose d'économie, comme tous les jours, avec Nicolas Dose, qui va vous annoncer en exclusivité le résultat des législatives. L'économie a déjà perdu. Ce sera vers 10h35. Côté bourse, Antoine Larigauderie, déjà connecté depuis Euronext, et puis nos day traders pour faire le point sur la séance en cours, alors que les marchés attendent évidemment le premier tour de ces législatives. On vous coach aujourd'hui l'impact de ces élections sur les investissements en non-cotés. Le regard d'Alexandre Leng, le cofondateur de Tudigo. Puis une question à laquelle Alain Pitous, notre analyste ESG, va répondre. Est-ce que les banques centrales vont servir à quelque chose dans les prochains mois? Et puis, c'est vendredi, les experts de l'IMO réunis pendant 30 minutes pour répondre à vos questions. Où en est-on sur le front du logement neuf? État de santé des promoteurs, des constructeurs de maisons et des artisans. On reviendra sur le congrès des promoteurs qui se tenait cette semaine. Quel était l'état d'esprit dans ce contexte politique? Guillaume Erard du Figaro et puis Céline Coletto du site trouverunlogementneuf.com auront des réponses, des éclairages pour nous. Au programme, il y a vous. Vous avez la parole tout au long de l'émission. Vous pouvez nous joindre par email comme François qui veut remettre le logement au centre des préoccupations en France. Il nous a envoyé quelques suggestions afin de relancer le logement. On lui répondra vers 11h15. Faites comme lui, vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Et puis c'est vendredi pour finir évidemment. Amaury Tonquet viendra nous donner le pouls des cryptos et du Web3 en ce dernier jour de la semaine travaillée. Antoine Larigauderie de Euronext nous attend. On part le rejoindre.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva. Salva le faire. Salva le faire. .fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Bonjour cher Antoine, rien à faire côté de CAC 40, on est dans le rouge et on sous-performe nos amis européens.
Bah, regardez hein, le tableau, hein, c'est très très simple. Hein, CAC 40 qui est en repli de 0,67% et on descend sous les 7500 points désormais. 7480. Du côté de l'Eurostox 50, on limite la casse à moins 0,14%. Mais Francfort, par exemple, reste dans le vert, plus 0,09%. Alors, il n'y a pas photo. Hein, évidemment, c'est le risque d'agitation politique qui pèse le plus sur les perspectives de la France sur les marchés. Ça se sent, hein, en plus de nos problématiques budgétaires, mais qui nous tiennent depuis pas mal de temps, et résultat, ça signe une prime de risque sur le bond du Trésor à 10 ans, très significative. On était à 3,21% ce matin, on redescend à 3,2%. Enfin, globalement, on reste sur un niveau de risque assez significatif. Et d'ailleurs, le spread, l'écart de taux avec le Bund allemand à 10 ans continue de s'écarter. On est à 75 points, hein. On est à 2,45 là en ce moment. Ça limite les perspectives de toutes les valeurs de croissance. Et ça se lit sur le CAC 40, L'Oréal moins 3%, 409,80 €. On a également les valeurs du luxe qui sont un petit peu maltraitées, hein. Hermès en particulier qui perd 0,9% à 2154 €. Et puis à noter des valeurs industrielles, mais qui sont là aussi en bas de tableau. Airbus qui perd 1,6% à 128,52 €. Air Liquide moins 1,26 à 161,42 €. À la hausse, en revanche, on retrouve ArcelorMittal qui gagne 1,22% à 21,50 €. On a également Renault plus 0,99 à 47,77 €. Et un peu de techno, ST Micro par exemple, qui gagne 0,61% à 36,54 €. Et Dassault System, plus 0,46 à 35,12 €. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Viridien qui gagne 2,5% à 48 centimes d'euros. Mais voilà, le CAC 40 en baisse de 0,63%, encore une fois sous les 7500 points. L'OAT 10 ans à 3,2%. Et l'euro face au dollar cote à 1,0698. À noter le pétrole, attention, on est proche des 86 $ sur le Brent à nouveau, à 85,90 €. Lorraine.
Merci beaucoup, cher Antoine. On vous retrouve dans une heure. On n'espère pas descendre plus bas. Et on sera dans l'attente aujourd'hui. Je pense que ça va être un des mots-clés. On verra ça avec nos traders aussi. Avant, vous, à tout à l'heure vers 11h, Antoine. Puis votre histoire du jour, on fera un petit point sur l'obligataire. Hein, parce que si le CAC est dans le rouge, ben, c'est sans doute en grande partie à cause de cet obligataire. À tout à l'heure, cher Antoine. C'est l'heure d'entendre les bonnes analyses de François Monnier.
Tout pour investir. le journal de votre argent.
Non, ne pas entendre, mais écouter attentivement votre analyse. Bonjour François.
Bonjour Lorraine.
François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, avec nous pour un bilan boursier. Vous posez votre regard sur les 6 derniers mois. Que faut-il retenir de ce qui s'est passé sur les marchés ?
Eh bien, on peut se dire que finalement, rien ne s'est passé comme prévu au niveau macro, puisque on attendait plusieurs baisses de taux de la Banque centrale américaine en ce début d'année. On n'en a eu aucune. Et il n'y en aura peut-être même pas non plus au cours du second semestre 2024. Et il faudra peut-être patienter 2025. Mais les investisseurs ne l'ont pas pris rigueur. On a été aussi surpris, rien ne se passe comme prévu au niveau de la dissolution. Et ça a perturbé le mois de juin, notamment les valeurs du CAC 40 et plus le marché obligataire français. Donc on est dans un contexte, on va dire quand même, au niveau macroéconomique et politique, imprévisible. Alors que les entreprises ont répondu présentes. Donc, quand on fait le bilan de ce semestre, à quelques heures de la dernière séance, eh bien, on voit qu'on a toujours une bonne performance de Wall Street, le S&P 500 qui gagne 15%, poussé, encore une fois, par les valeurs technologiques américaines et notamment la nouvelle ère de l'IA et de Nvidia qui est une véritable locomotive pour l'ensemble des actions américaines. On a l'Eurostoxx 50 quand même qui, lui, progresse peut-être deux fois moins vite que le S&P 500, mais on est aux alentours aujourd'hui de 8%. Et on a un CAC 40 qui est à l'arrêt du fait de ce risque politique à quelques heures aussi pas de la dernière séance du semestre, mais des élections législatives. Donc, et à l'intérieur de ce CAC 40 ou de la bourse française, on voit que les valeurs liées aux biens d'équipement continuent de réaliser de très bonnes performances. C'est le secteur vedette au cours de ce premier semestre,
les gagnants,
comme c'était déjà le cas l'an dernier, avec une star qui est toujours au rendez-vous, c'est Schneider Electric qui a gagné près de 25% au cours de ce premier semestre. Relayé pour une fois, qui n'est pas coutume, par Alstom, qui a réussi son augmentation de capital et lui qui gagne 35%. Donc les biens d'équipement sont toujours bien orientés. L'aéronautique défense également. On voit que ça craque, alors que ça a réalisé un très beau parcours, la tech française et les SS2I. Dassault Systèmes n'est pas du tout au rendez-vous, subit une panne de croissance et perd près de 20% au cours de ce semestre. Tout comme ST Microelectronics, qui est, on dit qu'on n'arrête pas de louer les formidables performances des acteurs des semi-conducteurs, sauf que ST Microelectronics n'est pas sur l'intelligence artificielle. Et donc, bien sûr, on se délaisse de ST Microelectronics pour acheter plutôt du Nvidia, de l'AMD ou encore de l'ASML en Europe. Et donc, la tech française va pas très bien. Les SS2I françaises non plus. Et autrement, on a ce qu'on appelle un peu le ventre mou, les secteurs qui n'ont pas fait grand-chose, le pétrole, la publicité, les médias, le luxe. Donc ça, ce sont des secteurs qui ont évolué quasiment proche de zéro.
Un gros ventre mou, pardon de le dire comme ça. Mais
un gros ventre mou, on peut le dire. Et donc voilà, donc on est dans l'attente, bien sûr, des résultats de ces élections pour essayer de retrouver une nouvelle dynamique. Mais on s'oriente probablement vers une volatilité accrue au cours de cet été.
On ne veut pas faire d'économie fiction, mais comment anticipez-vous et comment les actionnaires qui nous écoutent peuvent anticiper le semestre à venir ?
Là, on voit que on est quand même sur tout le monde a sorti la carte prudence. Cette prudence se manifeste par quelques arbitrages. On vend un petit peu les sociétés d'autoroute qui peuvent être nationalisées. On vend un peu les médias du fait peut-être d'une privatisation du groupe audiovisuel si en cas de victoire du Rassemblement national aux législatives. On réduit un petit peu l'exposition aux banques, qui est le secteur le plus sensible aux tensions sur le marché obligataire. Il faut voir que avant l'annonce de la dissolution, le secteur bancaire c'était un des secteurs phares de la Bourse de Paris, et ça, bien sûr, ça a fait pchit depuis cette annonce politique. Donc il y a des arbitrages, donc il y a des secteurs vraiment qui sont touchés. Et puis on voit qu'il y a un appétit pour l'international. On redécouvre l'attrait des valeurs suisses, on retrouve l'attrait des valeurs américaines. Donc dans les portefeuilles, l'exposition hors France prend un petit peu d'ampleur. Au niveau de l'assurance vie, on redécouvre les charmes des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Donc il y a un envie d'ailleurs qui se manifeste auprès des épargnants qui ont bien sûr peur d'être taxés, parce que quand on regarde un petit peu l'ampleur, on a plus de 3000 milliards de dettes, mais on a plus de 6000 milliards d'épargne en France. Donc on se doute bien que si on a un nouveau gouvernement qui veut faire des dépenses supplémentaires, eh bien, pour trouver de l'argent, il y a des fortes chances qu'il aille le chercher chez les épargnants qui aujourd'hui sont abrités par la flat tax, notamment. Si cette flat tax sautait, eh bien sûr, ça pourrait rabattre les cartes. Donc, on a un petit peu de nervosité, un peu d'inquiétude. Et donc, ben, on va vivre jour après jour. Et pour anticiper ça, eh bien, on essaie d'aller là où l'épargne peut être davantage protégée. Et donc, c'est plutôt hors des frontières. Donc, il y a une envie d'ailleurs qui se manifeste aujourd'hui indéniablement. Et ça se voit dans les cours, hein, parce qu'on avait un CAC 40 qui était bien orienté jusqu'à la dissolution et qui maintenant fait un bilan proche de zéro au cours de ces 6 premiers mois.
Cette envie d'ailleurs, on va en reparler dans quelques minutes avec Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners, et puis avec Alexandre Leng, cofondateur de Tudigo, avec qui on va prendre le pouls aussi du secteur non coté. Quelles sont les anticipations, les peurs des investisseurs? On va voir ça dans quelques minutes. Mais avant ça, on part parler un petit peu d'inflation avec nos traders, parce qu'au menu du jour, il y a l'inflation côté US. On part chez nos traders.
Tout pour investir, le match des traders.
Et ce matin, l'équipe du vendredi, c'est Jean-Louis Cussac, d'une part, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Hello, cher Jean-Louis. Et l'ami...
Bonjour, Lorraine.
Dorian Abadi, analyste OPCVM et bourse chez Meilleur Taux. Dorian, si vous voulez bien, on commence avec vous. On se demande comment vous voyez le week-end devant vous. Quelles sont vos anticipations, des anticipations du marché?
Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Bah, effectivement, ça a été rappelé à juste titre, c'est bien sûr la dernière ligne droite avant les législatives, donc la prudence est plus que jamais de mise en bourse. La prudence, c'est clairement le maître mot actuellement. Alors concrètement, de notre côté, en fait, on a allégé ces derniers jours nos allocations sur les actions françaises dans le cadre de notre gestion pilotée chez Meilleur Taux Placement pour nos clients. Donc notre biais, en fait, est le même depuis de nombreux mois déjà, c'est-à-dire être investi sur les actions, mais avec beaucoup de prudence. Nos poches actions actuellement sont pratiquement au plus bas depuis le début de l'année et on va continuer de les baisser dans les prochains jours. Alors, ce matin, on a un CAC 40 qui perd 0,65% au moment où l'on se parle. Il évolue sous les 7500 points, un seuil hautement symbolique, et il revient sur ses plus bas niveaux annuels qui ont été atteints peu après la dissolution de l'Assemblée nationale. On a moins 2% sur la semaine et surtout tous les gains de l'année au niveau du CAC ont été effacés malgré la tentative de rebond très fragile de la semaine dernière. On perd environ 1% depuis le début de l'année et bien sûr l'inquiétude, c'est la sanction des marchés avec un écart de taux entre les obligations allemandes et françaises à 10 ans qui dépasse le seuil symbolique des 0,80%, c'est vraiment le seuil critique, hein, qui commence à devenir un petit peu dangereux et qui indique la défiance des investisseurs envers la France et son futur gouvernement. Donc on a quand même une petite source d'espoir, on va dire, à court terme. Alors c'est peut-être plus vrai pour Wall Street et les marchés américains en attendant les législatives. C'est le programme de cet après-midi avec la publication du PCE Core, hein, c'est la mesure d'inflation préférée de la Fed, et ça peut constituer, voilà, une petite source d'espoir puisqu'on a un consensus de marché qui table sur un nouveau tassement de l'inflation à 2,6% sur un an en mai contre 2,8% en avril. Voilà, et puis en cas de résultat inférieur, on pourrait avoir une poursuite de la hausse des taux américains. Un petit mot technique enfin, hein, pour terminer. Au niveau du CAC chez Meilleur Taux Placement, on surveille surtout les 7465 et 7385 points par extension en cas de poursuite de la forte baisse à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Mmh. Et puis, espérons-le, en cas de rebond, la semaine prochaine, hein, l'espoir fait vivre, ce sont les 7575 et 7630 qui seront déterminants.
Entendu vos niveaux techniques et votre regard. Jean-Louis, comment vous positionnez-vous par rapport à ce que vient de nous dire Dorian?
Alors, plusieurs choses. Déjà, on a la volatilité implicite qui est à 24. Elle a progressé toute la semaine, doucement, mais sûrement. Je me souviens, par exemple, quand il y a eu les élections à Maastricht, on était passé de 20 à 45. Bon, là, on est passé de 19 à 24. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et lundi, on aura une réponse partielle, on va dire. Et là, on est dans la situation, faites vos jeux, ou alors les jeux sont faits, et on attend. Donc, moi, je ne prends pas trop d'initiatives. Je travaille toujours vendeur, mais sans plus. Je pense qu'à 24 de volatilité implicite, il est préférable d'aller vendre des options. Voilà. Alors, vendre des options, c'est vendre des puts, vendre des calls. On peut évidemment les hedger, mais imaginons qu'on le fasse d'une manière sèche comme ça. Mmh. Il faut se préparer à être soit vendeur si ça monte, protégeant un portefeuille, par exemple, pourquoi pas. même allégé. Et si ça baisse, bah, c'est, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, est-ce que je suis potentiellement acheteur, par exemple, vers 7000, 7100, est-ce que ça me gêne d'être potentiellement acheteur? Et là, il y a une chose importante. Comme on dit, quand même dans une zone un peu de danger, il faut se dire que l'effet de levier, ben faut l'oublier, hein, bien évidemment. Ou alors, bon, maximum 1,5-2. Et ce qu'on ne gagne pas par l'effet de levier, on le gagnera par la volatilité. Ça, c'est vraiment important. Et je sais que les gens veulent toujours en faire beaucoup quand c'est comme ça, mais non, il faut pas. C'est justement parce qu'ils sont très chers qu'il y a des enjeux et qu'il faut pas en faire beaucoup. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a eu des habillages de bilan ce matin parce que on a démarré fort, fort entre guillemets, mais le marché a progressé entre 8h et 9h. À 9h, il ouvre au plus haut et derrière, il a perdu 1,2%. Mmh. On y va sans rencontrer de résistance. Les marchés sont vides. Ça, c'est quand même assez stupéfiant. C'est creux. Le volume, il est normal. Donc, on a beaucoup d'arbitrage. On n'a pas vraiment de vente ciblée. Toujours un peu, mais c'est pas énorme. Et c'est vide si ça baisse, mais ça sera vide si on remonte. Il faut vraiment en avoir conscience. C'est pour ça, là, cette vol aussi est importante. Et le volume, il est normal. C'est-à-dire qu'il s'inscrit quoi? Il vient d'où ce volume? Il vient dans les situations d'arbitrage entre les valeurs françaises et les valeurs européennes autres que la France. Par exemple, ça, je dis n'importe quoi, exemple, hein, achat BMW, vente Stellantis, etc. Et par des arbitrages sur les indices, par exemple, ça peut être achat de l'Eurostoxx, vente du CAC, pour essayer de jouer la surperformance des autres indices européens par rapport au CAC 40. Mmh. Vous voyez, des choses comme ça. Donc le volume, il est hyper technique. Il n'est pas d'une conviction forte. Vous savez, la conviction, elle a déjà été traduite par des faits. Les valeurs françaises ont sous-performé. Alors maintenant, les niveaux techniques, c'est moins important. On travaille beaucoup sur des écarts-types, sur le fait qu'on est de toute façon en tendance baissière, sur le plan technique, qu'on peut aller, oui, pourquoi pas, chercher l'objectif suivant qui est 7200 hein, environ. Mais globalement, ce que j'observe également, c'est l'euro. Toujours ce petit indicateur de confiance qui est pas si mal que ça dans une situation quand même de grande turbulence. L'euro résiste, il tourne autour d'un 0,7. Voilà, c'est toujours un signal plutôt positif, même si dans le pipeline, il y a l'idée que les taux vont finir par baisser aux États-Unis, entraînant le dollar à la baisse. Mmh. Voilà, c'est ce qui soutient également l'euro. Donc là, on est dans des situations hyper techniques. C'est l'enjeu, les élections de ce dimanche. Et chacun maintenant est préparé au choc, hein. On a eu largement le temps. Il faut être hyper prudent, bien évidemment, dans ce genre de situation.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, merci Dorian Abadi. Le mot-clé, prudence et évidemment attente. On fera le point au moins avec vous Jean-Louis dès lundi. Merci à tous les deux. Cette séquence, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. On continue à parler des sujets qui vous concernent, on va continuer à parler de prudence et peut-être d'envie d'ailleurs à suivre.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
L'équipe du vendredi avec nous, François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Rebonjour cher François.
Rebonjour Lorraine.
Nous sommes rejoints par Olivier Lévy, président de Lévy Capital Partners. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine.
Et puis ce n'est pas jeudi, c'est vendredi, mais Alexandre Leng est maintenant avec nous le vendredi, cofondateur de Tudigo. Hello Alexandre.
Bonjour Lorraine.
François nous faisait le bilan boursier, ce qu'on devait retenir du premier semestre. Bon, rien ne s'est passé comme prévu, il y a quelques gagnants, beaucoup de perdants et encore plus de gens au milieu, de ventre mou comme vous nous disiez François. Vous nous disiez, les entreprises ont répondu présent. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet?
Disons qu'on a pu voir que lors de la publication des résultats annuels en ce début d'année, puis des résultats du premier trimestre, la rentabilité était là, les marges ont été bien défendues, il y a toujours de la croissance, des perspectives de développement, souvent à l'international, il faut le reconnaître, mais la distribution des dividendes s'est passée dans de très bonnes conditions. Donc on a quand même des entreprises qui sont extrêmement saines. Mmh. Les bilans sont pas trop endettés, donc il n'y a pas de sensibilité à fortement si jamais les taux dérapaient. Donc les entreprises sont très très bien gérées. Le problème, c'est le contexte politique et géopolitique. Il y a toujours bien sûr la guerre en Ukraine. Et là, on a cette dissolution qui entraîne des élections législatives anticipées qui n'étaient pas prévues. Et ce risque politique, eh ben, ça implique de mettre une prime, justement une prime de risque sur les valeurs françaises. Et concrètement, ben, ça explique une bonne partie de l'écart de performance entre un CAC 40 au cours de ce premier semestre qui est à zéro, alors que le S&P 500 fait plus 15. Et en Europe, les grandes valeurs européennes, l'Eurostock 50, est à plus 8. Donc on voit les écarts de performance avec le risque politique qui se matérialise concrètement dans ces performances.
Olivier Lévy, vous conseillez des gens fortunés.
Tout à fait.
Qui ont aussi des questions sur leur argent, qui ont observé ces entreprises bien gérées et qui aujourd'hui vous posent quoi comme question?
Écoutez, nous, ça fait maintenant 14 ans qu'on diversifie le risque France pour tous nos clients et ainsi que le risque immobilier. On a été très pédagogue. On a d'ailleurs monté une petite plateforme d'éducation financière, olimony.fr, pour aider nos clients à gérer leur budget. Vous savez, en France, il y a quand même un déficit crucial sur l'éducation financière et on devrait apprendre déjà au sein des écoles à gérer son budget. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour des investisseurs, des épargnants, en bonne gestion, on avait écrété, on a diversifié depuis longtemps maintenant le risque France en ouvrant des contrats d'assurance vie au Luxembourg, en achetant ces derniers jours des obligations allemandes plutôt que des obligations françaises. On a diversifié en achetant du franc suisse, en achetant du dollar, en réduisant la voilure, en étant agile, en ayant du cash, en ayant un peu de matières premières comme de l'or, parce que nous pensons que l'incertitude qui va régner ces prochaines semaines, ces prochains mois, fera que l'OAT français, comme le 10 ans français par exemple, sera attaqué par l'ensemble des institutionnels de la place, notamment les étrangers, qui ne peuvent pas raisonnablement donner un chèque en blanc à une nouvelle gouvernance avec tellement d'inconnus entre un dérapage budgétaire d'un côté et un matraquage fiscal de l'autre. Donc évidemment, nos clients sont protégés, on n'a pas sanctuarisé puisque le pire n'est jamais sûr, hein. La volatilité va reprendre dans un sens comme dans un autre, il va falloir être très réactif. Beaucoup trop de clients n'ont pas répondu aux sirènes de l'immobilier et du private equity, c'est une bonne chose. Par contre, j'imagine que des belles opportunités vont se faire jour aussi sur ces deux thématiques ces prochains mois, et il faudra là aussi pouvoir être en capacité de réinvestir à mesure où la stabilité et les prévisions seront à nouveau possibles. Puisque ce que nous disait François, c'est que la photographie d'hier est très belle, mais on a une guerre sur le sol européen, on a une instabilité politique en France, et les clients, tous les Français sont quelque part stressés depuis l'annonce de la dissolution. Donc on les rassure, en bonne gestion, voilà ce qu'on a fait, et attendons maintenant le soir du 8 juillet.
C'est dans longtemps. Ça va être long, les prochains jours. Alexandre, ce que disait Olivier sur le private equity, vous l'observez, vous l'anticipez?
On a interrogé nos clients. Alors nous, chez Tudigo, on a beaucoup d'investisseurs particuliers, bien sûr. Maintenant, on voit tout ce qui se passe dans le private equity. Il y a un attentisme parce que tout le monde se pose des questions par rapport au contexte. Bon, il y a un attentisme, mais ça n'a pas commencé maintenant. Ça fait 2 ans maintenant qu'il y a un attentisme parce que on a quand même enchaîné. On s'est fait Covid, guerre en Ukraine, hausse des taux d'intérêt. Enfin, on y va de crise en crise. La différence majeure, je pense, dans le private equity, c'est quand même qu'on est sur un investissement de long terme. On n'investit pas pour faire un achat, un achat revente et faire les plus-values comme ça. On est quand même sur des investissements qui sont très longue durée. Maintenant, ça a changé la façon, les stratégies d'investissement. On se focalise sur des entreprises qui vont être plus résilientes dans des contextes d'incertitude, dans des contextes compliqués. Et donc, on essaie de travailler sur, OK, quelles sont les entreprises qui, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, seront encore là et vont pouvoir continuer à se développer, quelles que soient les conditions. Ça nous amène à quoi? Un peu, si on reprend ce que dit François sur les entreprises qui finalement ont bien réagi. Elles ont bien réagi, on se parle d'entreprises qui sont bien gérées. Des entreprises qui gèrent bien, qui regardent bien, qui ont une bonne gestion financière, une bonne gestion de leur trésor, une bonne gestion de leur endettement, naturellement sont moins sujettes, moins sensibles à ces contextes, à ces effets de contexte. Bien sûr, il y a des impacts, parce que bon, un taux d'intérêt qui monte, ça vient réduire le résultat, mais ça vient pas mettre à terre l'entreprise. Et ce qui se passe en revanche, c'est que ça vient mettre à terre les concurrents qui, pour le coup, étaient moins solides. Donc, il y a aussi des effets où certaines entreprises, et on le voit, nous, au niveau des startups et des PME, ont explosé ces 3 dernières années parce que la concurrence en fait a disparu. Les entreprises les moins solides, les moins bien gérées, qui avaient des failles, hein, des fondamentaux non consolidés, bah celles-là pour le coup disparaissent. Voilà, c'est, il y a ce qui est mauvais pour les uns et souvent bon pour les plus forts.
François, pour boucler la boucle et revenir aux entreprises qui sont quand même la base de nos discussions finalement, les entrepreneurs, ces gens qui l'économie réelle. Est-ce que on peut adresser peut-être pour finir ce talk un mot aux entrepreneurs et aux gens dans les entreprises qui eux sont, j'allais dire, en bout de la chaîne et qui vont subir peut-être à la fois des mesures gouvernementales et puis un désamour ou une des préférences différentes des investisseurs, qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est certain, c'est que les entreprises, et surtout les dirigeants, eux, ils sont obligés de s'inscrire dans le temps long. Donc, ils ont très bien compris qu'on allait avoir des incertitudes pendant plusieurs mois. Concrètement, ça va probablement se matérialiser par des reports d'acquisition. Donc, on se concentre plutôt sur la croissance interne que sur les deals. On va le voir aussi dans l'immobilier. Hein. On attendait une reprise des transactions au niveau de l'immobilier pour les ménages français au cours de cet été. Ça va décaler probablement à cet automne. Donc, ce qu'on voit, l'attitude en fait d'un chef de famille, c'est la même chose que pour un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, il va s'engager sur du temps long, sur son plan strat 2027. Mais à court terme, il y aura peut-être un petit peu de retard. Tout le monde va repasser un petit peu le fait que est-ce que nos mesures d'économie, elles s'appliquent bien? Est-ce qu'on peut avancer un petit peu le plan d'économie? Parce que la surconsommation qu'on aurait pu présager au cours de cet été avec l'euro de foot et les Jeux Olympiques, eh bien, cette surconsommation, elle n'aura peut-être pas lieu. Donc, et peut-être qu'on aura peut-être même une petite baisse de la consommation. Donc, plus d'incertitude. Donc, quand on a de l'incertitude, le ménage français, lui, il a tendance à un peu plus épargner et à diversifier son placement parce qu'il se rend compte que, peut-être un peu tard, mais que quand vous avez de l'assurance vie en euros, du livret A et puis des actions du CAC 40, vous êtes trois fois exposé au risque France. Donc c'est important d'aller voir un petit peu ailleurs. Et donc, comme le ménage, le chef d'entreprise, lui, il se dit est-ce que je ne vais pas me développer un peu plus vite à l'étranger qu'en France, compte tenu du contexte géopolitique qui peut se dégrader ou peut-être s'améliorer. On va le voir dans les prochaines semaines.
L'envie d'ailleurs. Le mot de la fin, Olivier, le conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas aussi fortunés que tous vos clients, peut-être ceux qui sont en train de construire leur capital et qui, du coup, là, se disent est-ce que c'est le moment d'être investisseur?
Écoutez, c'est toujours le moment d'être investisseur. Ce qu'il y a, c'est comme on l'a dit, il y a la tactique, la stratégie, le temps court, le temps long. Donc il faut être agile, il faut toujours avoir des liquidités, une prime à la liquidité qu'on redécouvre que trop tardivement. Le pire n'est jamais sûr, il va falloir être opportuniste. Et comme mon confrère l'a dit dans le private equity, là aussi il y a des opportunités qui vont émerger. Le problème c'est que dans 5 ans, dans 7 ans, les business models, on les connaît pas. Les sorties industrielles et financières, elles sont là aussi en point d'interrogation. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il faut être liquide. Il y a une prime à la liquidité. Quand même on a quelques actions, quelques obligations dans son contrat d'assurance vie, ça reste liquide à tout moment, qu'on peut arbitrer, les livrer, les conserver. Et si l'on peut, effectivement, regarder de près ce qui va se passer sur le dollar, puisqu'il n'est pas impossible, là, en prévision des élections américaines, que l'euro-dollar aille en extrême vers 0,95-0,97 alors qu'on est à 1,07. Vous voyez ? Donc là, aujourd'hui, les marchés ils vont regarder quoi ? Les taux d'intérêt, d'une part, les devises, d'autre part. Et il y a trop de certitudes dans ce marché. Tout le monde me dit depuis trop longtemps, les taux vont baisser, les taux vont baisser, les taux vont baisser. Je veux bien, mais on est post-Covid et dans le contexte qu'on a souvent évoqué sur le plateau, les taux d'inflation vont rester sur des niveaux planchers, c'est-à-dire plutôt 2,5-3%, plus longtemps que prévu. Et ça va impacter tous les business models, tous les free cash flow, toutes les méthodes d'actualisation, de valorisation de société et de classe d'actifs, quelles qu'elles soient. Donc, restons prudents et allons chercher de la surperformance, évidemment dans le private equity, mais pour avoir là aussi un rendement bien plus confortable et sur d'autres classes d'actifs qu'on privilégie nous chez Levy Capital Partners, c'est-à-dire les actions, les obligations, quelles qu'elles soient.
Alexandre Leng, vous allez nous aider à muscler notre jeu, tactiquement et techniquement, pour reprendre ce que vous disiez, Olivier, il y a quelques secondes. Vous serez notre coach aujourd'hui. On va réfléchir aux biais psychologiques en investissement et comment ces biais sont impactés par les élections et comment continuer à investir malgré ces biais. Vous allez nous aider à identifier les secteurs d'activité, les types d'entreprises dans lesquels on peut avancer, on peut mettre des billes malgré le contexte.
Et ça synthétisera tous ces débats-là, parce qu'effectivement, en connaissant bien ces biais et en agissant sur ces biais-là, on va avoir des stratégies d'investissement qui, pour le coup, sont beaucoup plus résistantes à ces périodes.
Ce sera dans un gros quart d'heure dans la séquence Le Coach. Merci beaucoup à tous les trois. François Monnier, qu'est-ce qu'on lit à la une d'Investir cette semaine?
Eh bien, c'est un bilan complet, bilan perspective, avec le détail des grands gagnants et des perdants de ce premier semestre.
Voilà, c'est à lire ce week-end dans Investir. C'était dans vos oreilles dès ce matin sur dans Tout pour Investir sur BFM Business. Olivier Lévy, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un bilan. J'espère moins de certitude, mais avec un peu plus d'optimisme. Et puis Alexandre, à dans un quart d'heure. Vous restez avec nous. Nicolas Dose arrive avec en exclusivité, selon lui, les résultats des législatives. Pour lui, c'est l'économie qui a déjà perdu. A tout de suite après la pub.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Une exclusivité dans Tout pour investir. Nicolas Dose a déjà un résultat de l'élection législative de dimanche, oui. Un résultat définitif, écoutez bien. Ce matin, vous nous dites qu'on a déjà un perdant. Ce perdant, c'est l'économie.
Oui, absolument. L'économie ne fait pas voter. Et je dis le perdant, c'est l'économie. Et en plus, en économie, dans cette campagne, plus que jamais, plus c'est gros, plus ça passe. Vous prenez toutes les propositions, elles sont gorgées d'intuition, d'évidence que c'est la bonne solution, la bonne idée, que chacune va améliorer ma vie. Et c'est quasiment indubitable. 200 euros de plus pour le SMIC, c'est de l'argent, 200 euros. C'est du pouvoir d'achat, c'est obligatoire. C'est mathématique. Vous prenez la baisse de la TVA. Sur les carburants, c'est hyper taxé les carburants. Si je baisse la TVA, qui peut me dire que ça ne va pas faire baisser les prix s'il y a moins de taxes? C'est tellement évident. C'est tellement intuitif. Retraite à 62 ans, 60 ans, qui est contre? Levez la main ceux qui sont contre. Tout le monde est pour. Allons-y alors. On bloque les prix des produits du quotidien. On a quand même eu 2 ans d'inflation. Il serait peut-être temps de les bloquer, les prix, là. Ça suffit maintenant. Ou encore, les riches paieront. Oui, il est où l'argent, Lorraine? On va le chercher là où il est. Vous n'allez pas aller le chercher là où il n'est pas. De la même manière, on aura de l'argent en luttant contre la fraude fiscale et sociale. Ce serait peut-être temps qu'on s'y mette, à lutter contre la fraude fiscale et sociale. Et puis, de toute façon, l'État va donner du pouvoir d'achat. Vous vous souvenez de la chanson du dimanche en 2011? Donnez-moi du pouvoir d'achat. C'était déjà ça. On était déjà dans cette logique-là. Tout ce que je vous ai dit là, c'est implacable, indubitable, intuitif, évident, certain, à coup sûr.
Vous nous dites qu'il faut aller au-delà de ce qui semble évident.
Eh bien oui, on est typiquement dans la démonstration de l'économiste français Frédéric Bastiat. Il y a une économie, il y a ce qui se voit, et il y a ce qui ne se voit pas. C'est milieu du 19e siècle. Pour l'exemple de la TVA sur les carburants, ce qui se voit, ce qui semble d'une évidence crasse et logique, il y a énormément de taxes sur les carburants, environ 60 centimes sur un euro de carburant à peu près. Si j'enlève des taxes, les prix baissent. Et puis il y a ce qui ne se voit pas. C'est pas efficace. On l'a déjà fait. Les baisses de TVA, ça va surtout dans la poche du producteur et assez peu dans la poche du consommateur. Ou alors, faut qu'il y ait une concurrence sur la zone de chalandise monumentale. Voilà. Après, c'est tout sauf redistributif. Tout le monde en profite, y compris le gars qui fait Paris-Nice en Porsche tous les week-ends. Lui aussi, il est gagnant. Après, c'est une montagne de dépenses publiques, plus de 10 milliards d'euros. Il y a un moment, ça, on les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Faut aller les chercher dans une autre poche, ou alors faut aller les emprunter. Et puis en plus, en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est subventionner les énergies fossiles au moment où on veut s'en séparer. Ça, c'est ce qui ne se voit pas. Idem sur l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est logique que les salaires suivent l'inflation, puisque sinon, mon salaire réel devient négatif. Ouais, c'est vrai. Et puis regardez, la Belgique l'a fait, ça marche très bien. C'est ce qui se voit. Et puis il y a ce qui ne se voit pas. Les marges des entreprises en Belgique, c'est elles qui trinquent. Parce que c'est un pays hyper ouvert, central en Europe. Il ne peut pas se permettre de répercuter les hausses de salaires sur les prix. Donc un choc de compétitivité pour les entreprises belges. J'ai rencontré des entrepreneurs français installés en Belgique. Ils expliquent ce que ça a voulu dire, l'indexation des salaires sur l'inflation, sur leur activité et leur compétitivité. Après, il y a ce qui ne se voit pas. Il y a un garde-fou hyper puissant, législatif, qui a été mis en place en 1996. En fait, tous les 2 ans, les partenaires sociaux se réunissent et ils mettent un plafond que, quoi qu'il arrive, on ne dépassera pas, peu importe l'inflation. Ah, ça se voit pas, ça, évidemment. Et puis, s'il y a de la désinflation, alors là, c'est de l'austérité salariale qui s'installe en Belgique. Donc, ce qui se voit, c'est que les Belges le font, pourquoi pas nous? Ce qui se voit pas, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, là.
Votre certitude, et j'avoue que vous m'avez assez convaincu, c'est que l'économie a déjà perdu.
Oui, ouais, sans hésiter, l'économie a perdu. Je comprends. Oui, j'arrive, moi, le matin, là, ici, ou sur BFM TV, j'arrive avec mes stats, j'arrive avec mes milliards d'euros, mes pourcentages, mes statistiques, mes moyennes. Je sais qu'il y a des gens qui se disent, il est complètement aux fraises ce dos, il comprend rien à ma life. Enfin, il dit n'importe quoi. Oui, effectivement, le gars qui a pas eu une hausse de salaire depuis 2 ans et qui m'entend dire, hey, mesdames et messieurs, ça y est, les salaires ont rattrapé l'inflation et cette année ce sera plus 3,5%. Il a du mal à m'entendre dire ça, parce que lui, il n'a pas été concerné. Le gars qui cherche un job depuis 1 an et qui me voit arriver, eh bien réjouissez-vous parce que la France est en création nette d'emplois. Ça passe pas très très bien. Le type qui considère que le carburant est complètement surtaxé, qui dit, ah oui, il faut baisser les taxes, je pense qu'il n'achète pas un mot de ce que je viens de vous dire là. Donc oui, l'économie a perdu, je comprends ses réactions, tout ça est entendable, mais moi je continuerai à m'attacher, à regarder ce qui ne se voit pas.
On chiffre et on déchiffre l'économie sur BFM Business, et Nicolas le fait depuis de nombreuses années, avec brio. Merci Nicolas Dose, l'économie qui a déjà perdu les législatives. L'édito de Nicolas, retrouvé en podcast et en replay, à écouter et à partager, et puis également sur la chaîne YouTube de BFM Business. Juste en dessous, il y a des espaces commentaires si vous aussi voulez participer à la réflexion. À suivre, autre sujet de débat ou de discussion, les banques centrales vont-elles servir à quelque chose dans les prochains mois ? Alain Pitou, ça en avis.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Les marchés et vous, et Alain Pitou, senior advisor ESG. Bonjour Alain.
Bonjour.
On a passé beaucoup de temps à parler des banques centrales dans cette émission et ailleurs, dans l'actualité des entreprises. Et puis, depuis qu'on parle de politique, on ne parle plus du tout de banques centrales. Où sont-elles passées et est-ce qu'elles vont servir à quelque chose ? Pardon de poser les questions un peu simplement, mais il faut être entendu. Est-ce qu'elles vont servir à quelque chose cet été, les banques centrales, dans ce bordel politique, pardon pour le dire comme
alors,
ça ?
Oui. Alors, bon, je dirais il va y avoir deux temps, je pense. À court terme... Alors c'est sûr que ça, sur les 15 jours, 3 semaines qui viennent, que ça soit en France ou en Angleterre par exemple, où il y a des élections législatives dont on ne parle pas trop en France mais qui vont avoir un rôle aussi, on va vraiment parler d'autre chose que les banques centrales. Et la baisse éventuelle de taux de la BCE ou de la Banque d'Angleterre va passer vraiment au second temps. Alors par contre, à plus long terme, le rôle des banques centrales, il va certainement pas changer et il y aura peut-être du travail cet été, il faudra qu'elles restent sur le pont. Parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses. Et puis, plus tard, un peu plus tard, probablement, la Fed qui va, d'ici la fin d'année, reprendre son rôle central. Ça, c'est clair.
Bon, pour la politique à court terme, on a compris. Mais pourquoi, selon vous, la Fed et les Américains vont encore occuper tout l'espace de réflexion et l'espace médiatique ?
Si vous voulez, elles sont au cœur du système économique mondial. Elles ont vraiment pour mission de garantir la stabilité du système financier et puis de promouvoir l'économie, promouvoir la croissance économique d'une manière ou d'une autre et de faire en sorte que ça soit le plus durable possible. Et elles ont des missions qui sont clairement au cœur de tout ça. Alors si on peut les énumérer, je vais essayer de passer assez rapidement. Il y a la stabilité des prix, ça c'est tout ce que tout le monde voit. Il y a quelque chose qu'on voit peut-être un peu moins, c'est la supervision du système financier. Elle s'arrange et elle s'organise pour superviser et faire en sorte que les réglementations sont respectées.
Elle gère le risque, on peut le dire comme ça.
Pardon ?
Elle gère le risque, on peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, elles font en sorte qu'il n'y ait pas d'acteur défaillant qu'elle n'aurait pas prévu et circonscrit dans un coin, on va dire, pour faire en sorte que ça ne perturbe pas l'ensemble du système financier. Elle facilite les paiements. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et on le voit, dès que ça se grippe, l'économie s'arrête. Donc leur rôle est très important sur ce plan-là. Elles émettent la monnaie. Et puis, elles ont aussi, chacune à leur niveau, parce qu'elles n'ont pas toutes le même poids, elles contribuent au système financier international parce qu'elles coopèrent entre elles et elles se préviennent d'éventuels problèmes. Et elles agissent pour essayer de prévenir les crises financières. Donc c'est certain que on en parle moins en ce moment, mais ça va revenir sur le devant de la scène. Et puis évidemment, la Fed, qui est la plus importante, elle va être au cœur de l'actualité à un moment ou à un autre. Alors on a les élections qui vont arriver, et puis elles donnent le ton pour l'ensemble de l'économie aux États-Unis, bien évidemment, comme partout, avec le niveau des taux courts qui donne le niveau auquel les entreprises et les ménages vont s'endetter, mais également son rôle pivot par rapport à toute l'économie mondiale. Donc rôle clé qui va revenir, ça vous inquiétez pas, vous allez avoir des sujets sur la Fed d'ici la fin d'année.
Ouais, ce rôle pivot dans la stabilité du système international, du système financier mondial, on peut prendre un exemple concret, notamment la maîtrise de l'inflation, c'est une de ces missions qui dépassent les frontières.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que, et c'est là que ce sont des défis qui sont pas évidents, parce que les coordinations sont pas évidentes elles-mêmes. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, l'inflation, mais vous avez plusieurs causes à l'inflation. Alors, ça peut être, comme en Europe, une perturbation des chaînes d'approvisionnement liées au Covid, à la guerre en Ukraine, et puis vous avez en face de ça une inflation aux États-Unis qui est liée à une demande qui est restée assez forte. Donc pour elle, c'est difficile parce que en fait, il faut qu'elle trouve l'équilibre entre freiner l'inflation et agir vraiment sur l'endroit où l'inflation monte, sans non plus casser l'économie et augmenter le chômage. Donc on voit bien que cet équilibre est particulièrement instable. Et moi je pense aussi, donc ça c'est quelque chose qui est récurrent, hein, ça date de plusieurs dizaines d'années, il n'y a pas le sujet, mais je pense que à court terme, il pourrait y avoir de l'actualité cet été qui ferait que les banques centrales seraient vraiment sur le pont. Ça, je pense que ça va être l'expression.
Je vais vous le dire tout de go. Est-ce que vous pensez à une intervention de la BCE pour éviter une crise de la dette ?
Alors, ça, c'est un scénario de crise. Hein. J'en avais parlé un peu la dernière fois que j'étais venu, il y a une quinzaine de jours. C'était les scénarios qu'on pouvait imaginer, un scénario de crise avec la BCE qui intervient pour essayer de juguler le problème. Je pense que ça va arriver effectivement. Enfin, peut-être. Enfin, ça peut arriver. C'est un sujet. Espérons tous qu'on évite ça. Mais je pense que par le biais des devises, on pourrait avoir vraiment de l'actualité dès cet été.
À mon avis, vous avez envie de me parler du yen, là.
Oui, alors effectivement, parce que alors si on regarde le point de départ de tout ça, c'est vraiment ce qui s'est passé aux États-Unis depuis deux ans maintenant. C'est cette très forte hausse des taux américains qui a conduit à une vigueur du dollar et puis qui a des impacts sur les ensembles des économies. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les économies et les marchés sont très liés entre elles. Ça, c'est quelque chose qu'on sait tous. Et puis, dans le cas des devises, c'est même encore pire, puisqu'en fait, la hausse d'une devise a un effet sur une autre. C'est-à-dire que quand vous avez une devise forte, vous avez forcément un endroit, une devise qui est plus faible. Et je pense que on a, depuis maintenant plusieurs mois que ça dure, on a quelques candidats potentiels assez forts, assez évidents, pour mettre un beau bazar cet été et à l'automne ou plus tard.
Il y a le yen, il y a la monnaie chinoise, et à mon avis, vous avez une petite monnaie sud-américaine aussi en tête, une ou des.
Voilà, c'est ça. Alors, en fait, le yen, on va en parler, le yuan aussi, c'est un peu plus long, les devises émergentes, ça fait un moment que ça dure, et je pense qu'il y a des signes un peu de craquement à droite à gauche. Bon, il y a le réel brésilien qui a bien baissé, le peso qui a bien baissé, d'autres devises asiatiques qui sont sous pression. Donc, oui, on est... je pense qu'on est mûr pour un été qui pourrait être un peu chaud, en fait, sur ces devises.
On voit l'idée, on voit se dessiner une sorte de jeu de domino. Est-ce qu'on peut revenir, pour conclure, sur l'Europe, Alain, avec vous ? Est-ce que vous envisagez une situation tendue, c'est le mot, sur la zone euro, et une intervention de la BCE potentielle à court terme ?
Oui, alors, bon... C'est un scénario de crise, hein. Alors, clairement. Alors, les scénarios de crise, alors je sais qu'on aime bien tous en parler parce que c'est plus visuel, mais on peut pas gérer avec un scénario de crise, c'est difficile. Mais enfin, il faut l'avoir à l'esprit. Et il y a effectivement un scénario de crise suite aux élections françaises, puisqu'en fait, on est sur une situation où l'État français est très fortement endetté, donc ça nous fragilise. Et il y a une probabilité donc qui est vraiment pas nulle. Et alors ça vient toujours de la même chose, hein, c'est-à-dire que des décisions politiques, un écart de taux avec l'Allemagne qui s'écarte. Quelque chose qui se grippe à un endroit et ça on risque de l'apprendre à nos dépens, parce que si la BCE intervient, et ça je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit, c'est que il va y avoir des conditions à cette intervention. Donc c'est ça qui va faire qui va mettre une grosse pression, c'est-à-dire que en fait des phénomènes de marché, une intervention plus ou moins annoncée de la Banque Centrale Européenne avec des conditions d'intervention. Et ce qui fait que là on va se retrouver comme ça, comme on l'a connu dans les périodes de crise de zone euro, avec des réunions de crise, des réunions de la dernière chance, etc. Et ça va être quand même être très perturbant, parce qu'en fait on va avoir donc un bras de fer entre ce que va demander de mettre en place la BCE comme mesure structurelle et ce que pourront faire les politiques français qui ont été juste élus, quoi, en fait.
Alain, on compte sur vous pour nous aider à décrypter cette situation dans Tout pour Investir, mais on vous entend aussi avec Marc Forentino dans C'est votre argent régulièrement. L'été sera chaud, c'est ce qu'il faut retenir, avec des impacts sur l'euro. Et puis, attention, hein, vous nous dites, attention aux devises, à une guerre d'échange, on l'a entendu. On parle de yuan, on parle de yen, on parle aussi de monnaie sud-américaine. Alain Pitous, en podcast et en replay sur notre site et notre application, son analyse disponible d'ici quelques secondes. Alain, on se retrouve au moins dans 15 jours. J'espère peut-être même d'ici là. Cette séquence est retrouvée en podcast et en replay, je vous l'ai dit. On continue à s'occuper de votre argent, à s'occuper de vos finances personnelles, à penser à l'impact des législatives sur les investissements. On va parler de non-coté maintenant avec Alexandre Leng de Tudigo.
Tout pour investir, le coach.
Je ne sais pas si vous allez sortir de cette émission avec un meilleur moral, mais vous serez au moins bien informé financièrement. Rebonjour Alexandre.
Oh, bonjour Lorraine.
On va parler de capital investissement français. Vous nous avez fait la gentillesse de sonder une partie de votre communauté. On a quelques conclusions sur l'état d'esprit des investisseurs ou des wannabes investisseurs en non-coté. La primeur d'une sorte d'étude, de petit sondage si je peux dire. Racontez-nous ce que vous avez fait avec l'équipe Tudigo.
On a interrogé 250 personnes sur... Alors on a posé trois questions. La première qui était dans l'hypothèse d'un changement de majorité suite aux élections législatives, quel programme vous semblait le plus défavorable à l'investissement de non-coté ? La deuxième qui était, est-ce que l'incertitude politique va-t-elle impacter votre stratégie d'investissement ? Et la troisième, quels sont selon vous les secteurs qui seraient le plus à risque ou plutôt les plus résilients. L'idée, c'était quoi ? C'était de voir effectivement au-delà de ce que pensent les marchés, les analystes, les professionnels de l'investissement, qu'est-ce que le particulier voit, comment est-ce qu'il pense, avec tous les biais que peut avoir l'investisseur épargnant de débutant à aguerri.
La première question, c'est l'hypothèse d'un changement de majorité avec le RN d'un côté, le NFP de l'autre. Et la conclusion, c'est quoi ?
La conclusion, c'est que les trois quarts des sondés considèrent que ce changement de majorité, il n'est pas neutre. Je dis qu'ils considèrent qu'il n'est pas neutre, mais en fait, ils ne sont pas unanimes sur la pire des hypothèses. Si on reprend ce que Nicolas tout à l'heure disait, oui, en effet, je pense que l'économie est la grande perdante de ces élections. Tous pensent qu'effectivement, on va avoir un problème. Ils sont 61% à penser que le plus nuisible économiquement reste le nouveau Front Populaire, contre 39% pour le Rassemblement National.
J'ai fait un verbatim de quelques-unes des réactions que vous avez reçues autour de ce sondage.
Donc évidemment, on a eu beaucoup anonyme, de verbatim, on a une bonne centaine de verbatim.
Les extrêmes et l'incertitude ne sont pas bons pour l'investissement. Épargner plus en raison de l'incertitude. Quel que soit le scénario, je pense qu'il vaut mieux éviter d'investir en France. Et je ne parle pas du cas le plus catastrophique avec le Front Populaire. Ça ne change pas grand-chose car comme d'habitude, rien de concret ne sera appliqué, surtout pour le RN qui ne semble pas au point sur son programme économique. Bon, dans toutes ces réactions, si on analyse un petit peu de manière financière et rationnelle, il y a en sous-jacent des biais. Quels sont les biais qui animent les réponses de vos sondés là ?
Je veux dire, il y a des biais et puis je vais revenir sur quand même le temps long de l'investissement et qui est encore plus valable en non-coté. Et ça tombe bien cette semaine, si on veut être optimiste, il y a quand même le dernier résultat de l'étude France Invest Ernst & Young qui sort tous les ans sur la performance actualisée 10 ans du capital investissement. Et qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'elle est toujours très au-dessus des autres classes d'actifs. Le CAC 40 a très bien performé l'année dernière, avec quand même, on est sur une performance 10 ans qui est autour de 10%, 10,5%, mais le capital investissement reste la reine en termes de performance des classes d'actifs avec 13,3% de TRI moyen sur ces 10 dernières années. Donc, si on prend le temps long, si on prend toutes les crises, malgré tout, le private equity s'en sort bien. Et il s'en sort très bien, suffisamment en tout cas, pour distribuer, on n'a pas pu en aborder tout à l'heure, mais sur ces 25 dernières années, 1000 milliards quand même d'euros aux gérants des fonds d'investissement.
1000 milliards de dollars, non ?
De dollars, pardon, excusez-moi, 1000 milliards de dollars. Mais bon, quand même 1000 milliards.
Je reformule. En gros, le private equity a distribué un pactole de 1000 milliards aux gérants du private equity.
Ouais, mais alors il a distribué comment, hein ? On se parle même pas des frais, on se parle de ce qu'on appelle le carried interest. Le carried interest, c'est quoi ? C'est un pourcentage qui est prélevé sur la plus-value réalisée, la plus-value nette réalisée sur les investissements. C'est l'idée du carried interest, c'est d'aligner le gérant, qui va à la fois faire un gros travail. Et nous chez Tudigo, on fait pas juste un travail finalement d'acheter et de vendre et de choisir des entreprises. Il y a ce travail-là, il y a un travail de négociation, mais ensuite il y a tout un travail de suivi et de gestion du portefeuille. Et qu'est-ce que ça veut dire en private equity, qui est vraiment, on se parle vraiment d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit mais on s'investit. Chez Tudigo, on accompagne les entreprises, on met en place, en plus de les suivre, on met en place des moyens, on les met en relation avec des gens, des experts qui peuvent aider ces entreprises dans les phases compliquées et les aider également dans la croissance. Et c'est ça que font les gérants et c'est comme ça qu'ils génèrent cette plus-value.
Donc l'alignement des intérêts, ça peut permettre de générer jusqu'à 1 000 milliards de dollars. C'est ça qu'il faut retenir.
Voilà.
Bon, revenons à ces biais d'investissement qui peut-être viennent flouter la vision des investisseurs, des wannabe investisseurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces biais, Alexandre ?
Ouais, alors le premier biais, et là je parle vraiment de ces biais d'investissement, on les trouve toutes classes d'actifs. Hein, et vous allez vite comprendre pourquoi les Français sont les rois sur
les rois des biais.
Et du livret A. Et voilà. Mais le premier, le plus gros, c'est l'aversion à la perte. Les investisseurs ont tendance toujours à surestimer les risques politiques, ce qui les amène à prendre des décisions qui sont défensives. Et donc à chercher soit le repli, donc arrêter d'investir, soit des entreprises, des projets, des actions cotées qui sont stables, plutôt que celles qui vont potentiellement générer de la performance. Donc voilà, donc en cas si, typiquement hein, si je prends en cas de victoire de la gauche, les investisseurs vont se dire qu'avec les hausses d'impôts, les hausses de taxes, c'est sûr que les entreprises vont pas réussir à s'en sortir. Voilà. Après, vous avez le biais de confirmation. Le biais
ça,
de confirmation.
C'est, on aime bien entendre les choses dont on est déjà par lesquelles
exactement.
On est déjà convaincu.
Voilà. Donc, on vient regarder. Donc, on a déjà certaines peurs, certaines croyances. Et puis, on regarde le programme. Et donc, en fait, on va relever dans les programmes politiques tout ce qui nous confirme que ça va être compliqué. Ça, c'est un des grands biais.
Il y a le biais de ce qu'on appelle de disponibilité. Qu'est-ce que c'est ?
Disponibilité, en fait, c'est disponibilité de l'information. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a une couverture, une médiatisation de ces sujets. On fait un énorme focus sur les impacts économiques catastrophiques du résultat de ces élections. Même si, en réalité, est-ce que vraiment ils vont mettre en œuvre tous ces programmes qui sont, pour certains, qui ne tiennent pas vraiment la route, financièrement parlant, ce biais de disponibilité de l'information amène à craindre et à se dire que oui, ça va être une catastrophe.
On pourrait lister plein d'autres biais, mais il y a un biais qui est important pour conclure ce tour d'horizon, c'est l'effet de cadrage dont les médias sont un peu les spécialistes. C'est quoi l'effet de cadrage ?
Les médias sont les spécialistes pour qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui attire l'œil, c'est la panique, c'est ce que le... C'est pas qu'on aime c'est qu'on aime être paniqué, mais bon, quand on regarde finalement tout ce qui s'est passé pendant le Covid, on est non-stop en train de parler du Covid, bon, on arrive quand même à occuper la chaîne comme ça, tout se focalise là-dessus, et finalement la perception du monde est le reflet du temps passé à parler d'un seul et même sujet.
Alexandre, il faudra qu'on continue ce coaching peut-être au lendemain des élections.
Ouais.
Et vous nous aiderez à réallouer finalement notre argent et notre temps, puisqu'on investit, on s'investit vers des secteurs et peut-être des angles spécifiques. Mais avant de se quitter, peut-être basé sur les biais que vous nous avez listés, quels sont les conseils qu'on peut donner aux investisseurs et wannabe investisseurs qui nous écoutent pour contrer ces biais ?
Je vais vous donner les mêmes que ceux que j'aurais donné avec le contexte de la guerre en Ukraine, avec la hausse des taux.
Ça tombe bien parce qu'on est dedans.
Voilà, qui se fait.
Alors,
les mêmes. Concrètement, il faut aller. En ce moment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers des entreprises qui sont plus solides, qui sont plus matures. On va vers des entreprises, par exemple, qui font du capital développement, qui ont des actifs derrière. On a en ce moment un vignoble en Bourgogne avec des terres agricoles, en plus de l'exploitation, des fonds de commerce, des actifs immobiliers. Et de la rentabilité. Et puis, le dernier, on doit aller vers des entreprises qui ont la capacité de tenir dans ces périodes d'incertitude, parce que ces périodes d'incertitude affectent les investisseurs, créent de l'attentisme, et donc l'investisseur qui prend plus de temps, ça veut dire que l'entreprise doit aussi avoir plus de temps. Donc regardez les entreprises qui ont de la trésorerie et qui ont ce qu'on appelle du runway, c'est-à-dire un maximum de mois de trésorerie devant elles.
Voilà, et pensez le temps long finalement.
Pensez toujours le temps long, on investit, Warren Buffett qui disait toujours, ne pensez pas 5 minutes à investir dans une entreprise que vous ne seriez pas prêt à garder 10 ans.
Bon, j'espère que ça vous inspirera, chers auditeurs, auditrices. On vous aide à naviguer ces temps d'incertitude, à savoir comment investir ou en tout cas réfléchir à investir, parce qu'il faut continuer. Les entreprises, elles ont besoin d'argent. Et vous avez besoin de faire travailler votre argent aussi et de participer à l'économie réelle. C'est l'intérêt du private equity, entre autres. Merci beaucoup, Alexandre Leng. À retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes. Du coup, la semaine prochaine, on réfléchira aux entreprises à risque, en fonction du résultat des élections. Ça vous va?
Ça marche.
Les élections à risque, et puis celles, peut-être au contraire, qui pourront être portées. Peut-être. Par les politiques qui seraient mises en place post-élection. Mais ça, il faudra qu'on se parle après le 8 juillet. À suivre, Raphaël Couder, pour les dernières informations économiques. Et puis après, on continue à s'occuper de vos finances personnelles. On va parler immobilier, c'est vendredi. Plein de choses à dire sur notamment le logement neuf. Ce sera l'objet de notre discussion. Et puis c'est vendredi, Amaury de Tonquédec viendra nous parler crypto en fin d'émission. À tout de suite, après une toute petite pub.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. Et puis tous les jours et toutes les nuits, si vous nous écoutez en podcast, en dehors de notre fuseau horaire. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier. C'est vendredi, les experts de l'IMO se réunissent pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au logement neuf. État de santé des promoteurs, des constructeurs de maisons, comment vont les artisans? On reviendra sur le congrès des promoteurs qui se tenait cette semaine, quel est l'état d'esprit dans ce contexte politique? On reviendra aussi sur la proposition d'ensemble sur la suppression des frais de notaire, alors frais de notaire entre guillemets, hein, pour les primo-accédants, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Nos experts, ce sera Marie Cœur de Roy, Guillaume Erard du Figaro, entre autres. Et puis vendredi, on investit dans les cryptos. Amaury de Tonquédec viendra nous faire le point sur la semaine Web3 et crypto-monnaie. Au programme, il y a vous. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis ce matin, en tout cas en direct, et à nous saluer. Alors on vous salue à votre tour, à notre tour, Gilles, Guillaume et Vincent. Et nous partons du côté de Euronext pour faire le point sur une séance, écoutez, dans le rouge, du côté du CAC. Et oui, il n'y a pas de miracle depuis ce matin. On reste en baisse, notre CAC 40 reste en baisse et on se dirige dangereusement vers notre plus bas de l'année, Antoine.
Ah oui, comme quoi les marchés, ils ont déjà voté à deux jours du scrutin pour les législatives françaises et il est clair qu'on signe une contre-performance. Alors, c'est sans doute la contre-performance en intraday la plus marquée depuis bien longtemps puisqu'on a un CAC 40 qui recule de 0,58%. On se retrouve au plus bas depuis fin janvier à 7487 points. On est quasiment 200 points au-dessus de nos plus bas annuels qui datent vraiment du tout début de l'année. On a une contre-performance marquée déjà alors par rapport à l'ensemble des valeurs techno parce qu'on a un Euronext Tech Leader qui surperforme largement, plus 0,14%, mais les autres indices européens, eux, ils sont résolument dans le vert. Avec le DAX à Francfort qui gagne même 0,47% alors que l'Eurostock 50 est en hausse de 0,03%. Alors, les raisons de ce déséquilibre, évidemment, c'est la prime de risque qu'il y a sur nos marchés face à l'échéance législative de ce week-end. On a des prises de bénéfices alors marquées sur pas mal de groupes qui ont connu des destins boursiers un petit peu chaotiques ces derniers jours, notamment Airbus qui recule d'1,68% à 128,44. On a L'Oréal, moins 3,68% à 407,30€. Et puis les valeurs du luxe qui sont vraiment attaquées. Hermès, moins 1,3% en état 2143€. Pernod Ricard aussi qui recule d'1,13% à 127,05. Du côté des valeurs à la hausse, ArcelorMittal, plus 1,8% on est à 21,62€. Renault, plus 0,97% à 47,76€. Et AXA, plus 0,66 à 30,57, la plus forte hausse du SBF 120. Tiens, elle est pour Casino, qui gagne 3,3% à 3,51€. Alors qu'Atos s'écroule totalement encore. 1€, le titre est en baisse de 13,4%. Moins 0,64 pour le CAC 40, on est à 7482 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on cote en ce moment à 1,0696. On ne bouge pas trop depuis ce matin, Lorraine.
Antoine, merci pour ce point. Le CAC 40 au plus bas depuis fin janvier. Ça nous emmène à votre histoire financière à suivre.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Ah oui, parce que si on remonte à la source de cette contre-performance, cette contre-performance du CAC 40, qu'y a-t-il ? Eh bien, il y a le marché obligataire. Vous allez nous raconter comment les chiffres là commencent à devenir spectaculaires.
Bah oui, parce qu'on monte à 3,25% désormais pour l'OAT français 10 ans. 3,25. On avait terminé la semaine dernière à 3,10. On était sur ce niveau-là juste après l'annonce du résultat du scrutin des européennes et l'annonce de la dissolution. Donc là, il y a vraiment une prime de risque supplémentaire qui est en train de s'installer. Pour vous donner un comparatif, le rendement de l'obligation 10 ans portugaise est 3,24. On est un point de base en dessous. Donc, il se passe ce qu'on dit depuis une quinzaine de jours, c'est que la France officiellement est rentrée dans la zone des pays du sud de l'Europe, des dettes périphériques, comme on dit, et plus péjorativement du Club Med. Mais voilà, globalement, on se retrouve avec un rendement qui est entre celui du Portugal et de l'Espagne. Alors, pourquoi ? Bah, c'est tout simple. Nos problèmes budgétaires, ça, on se les traîne depuis des années et des années. On voit qu'on a encore alourdi le score de la dette ce matin, bien sûr. On voit que les agences de notation, dont Standard & Poor's, qui a abaissé notre note de crédit d'un cran, nous rattrape régulièrement dessus. Ça, c'est pas une nouveauté. Le problème, c'est l'hypothèque d'instabilité politique. Quoi qu'il sorte des urnes ce week-end, on peut prévoir des nouveaux dérapages budgétaires et des trajectoires économiques qui vont se retrouver aggravées et alourdies par une nouvelle majorité et un rabattage des cartes radicales pour des options qui vont s'annoncer radicales, quelque direction qu'elles soient. On va être dans une situation qui va être bien plus négative qu'avant, avec des perspectives très très incertaines et encore une fois des difficultés de refinancement de cette dette. Une mise en difficulté aussi des entreprises qui ont un profil de dette lourdement endettée en bourse. Et on le voit, ça commence à véritablement être un plafond de verre pour un certain nombre de valeurs. Les valeurs de croissance, bien sûr, qui financent justement par la dette leurs bénéfices futurs. Donc voilà, un enchaînement qui risque de provoquer alors une baisse sensible du CAC 40 si ça continue, si on passe des caps symboliques comme les 3,3 ou qu'on remonte à 3,5%. C'était les plus hauts qu'on avait atteints l'année dernière. Et ça risque de véritablement constituer un poids considérable et de long terme sur les performances du marché action, et on risque même de signer une contre-performance marquée par rapport à l'ensemble du continent européen.
Voilà, taux haté à 10 ans, on va dire dangereuses tensions qui sont à surveiller. Merci Antoine pour votre analyse, votre regard sur l'obligataire et sur les marchés toute la semaine. Antoine, qu'on retrouve dès la semaine prochaine dans Tout pour Investir et tout au long de notre antenne matinale sur BFM Business. À suivre, on va parler immobilier. Oui, il faut bien parler d'immobilier comme tous les jours. On va même parler du neuf. On va faire du neuf aujourd'hui. À suivre avec nos experts et Marie Cordova qui arrive.
Tout pour Investir, les experts de l'IMO.
Les experts de l'IMO, comme tous les vendredis, une demi-heure pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va faire du neuf. Bonjour Marie Cordova.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Vous êtes venue en studio accompagnée d'une part de Guillaume Erard, notre confrère immobilier du Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Un habitué du plateau, et ce n'est pas parce que c'est la fin de la saison, comme on dit à la télé et à la radio, qu'on ne peut pas accueillir des nouveaux. On va donc bizuter Céline Colletto ce matin. Bonjour Céline.
Bonjour à tous, merci de l'accueil.
Vous êtes journaliste sur une institution qui porte très bien son nom et qui va tout à fait nous éclairer aujourd'hui. Trouver un logement-neuf.com. Voilà, on sait qu'avec vous, on va parler du neuf, n'est-ce pas, chère Marie ?
Exactement, mais d'abord, parce que ça concerne et le neuf et l'ancien, je pensais qu'on pourrait faire un petit point crédit. On en a parlé avec Antoine Larigauderie sur les marchés, on voit que les taux d'intérêt de la dette française sont quand même pour le moins sous tension, compte tenu du contexte évidemment politique. Je vous regarde tous les deux. On en est où d'abord sur les taux d'intérêt ? On disait qu'ils baissaient, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Et quelles sont vos perspectives, Guillaume, Céline, lequel veut commencer ?
Je vais commencer. C'est vrai que j'ai envie de commencer par des bonnes nouvelles. Parce que, pour le coup, c'est vrai que le contexte est assez compliqué. Les taux continuent de baisser. On interroge les banques et les courtiers qui nous disent ok, d'accord, il y a un contexte politique qui est crispé, mais les banques continuent et même frappent à la porte des agents pour dire donnez-nous des dossiers.
Ouais.
On a eu une bonne petite nouvelle cette semaine sur le pouvoir d'achat immobilier. Meilleur taux nous dit que ces 6 derniers mois, le pouvoir d'achat, donc en gros, c'est la surface que vous pouvez acheter en mètre carré selon la capacité d'emprunt, selon le crédit, le taux de crédit, a augmenté de 3 mètres carrés. En France, Vous me direz, c'est pas énorme. Ouais, sauf que entre ces 5 dernières années, ça avait augmenté d'une vingtaine, ça avait baissé d'une vingtaine de mètres carrés.
Oui, parce qu'on a une conjonction d'éléments depuis le début de l'année qui est une baisse des taux d'intérêt, qu'on le veuille ou non, même si c'est pas autant que certains l'espéraient, mais on a quand même perdu, je crois, en moyenne 0,5 point, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis on a cette petite baisse de prix quand même.
Exactement. Donc du coup, on se retrouve avec des villes qui perdent, qui voient le pouvoir d'achat augmente de 4 à 5 mètres carrés. Je peux citer Saint-Étienne, Le Havre, mais aussi des villes comme Lille, Strasbourg, Toulouse. Donc c'est vraiment général. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu une petite crise politique, petite.
Est-ce que là, on regarde dans le rétroviseur?
Voilà, exactement. Et bah, c'est demain, c'est dans 2 jours, on aura le premier tour. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, bah, pour l'instant, pas d'affolement, mais quid dans une semaine, selon les résultats qu'on nous annonce.
Alors, du coup, dans 2 semaines? Enfin, du coup, 10 jours, on va dire.
Ouais, voilà, 10 jours, exactement.
Oui, bien sûr, mais dès le premier tour, il peut se passer aussi en fonction des résultats.
Et on l'a vu, d'ailleurs, après les élections européennes, les 2 jours qui ont suivi, l'OAT, qui était autour de 3%, est passé à 3,3%. Si ce scénario se répète, aujourd'hui, on nous dit, tant que les taux... l'OAT, donc, on rappelle, c'est le taux auquel l'État emprunte et sur lequel se basent les banques pour fixer leur taux de crédit. Tant qu'il n'a pas atteint 3,5, en tout cas c'est ce que les banques nous disent, pour l'instant, on n'augmente pas nos taux. On est capable de digérer cette hausse d'OAT. Si on arrive à cette OAT à 3,5, là, il y a un risque de hausse des taux de crédit.
Céline, vous percevez comment justement ce marché du crédit immobilier, qui reste l'alpha et l'oméga qu'on souhaite acheter dans l'ancien comme dans le neuf, est-ce que vous pensez sincèrement que ce contexte électoral peut vraiment aller finalement à l'encontre de toutes les prévisions des courtiers et des spécialistes de l'IMO qui nous disaient qu'on allait continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année au moins? Est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause ou que c'est juste une espèce de parenthèse possible?
Ça risque de pas être une parenthèse, parce que déjà dès l'annonce surprise de la dissolution, le lendemain, les taux OAT ont augmenté en France et pas en Allemagne. Ouais. Et ils ont encore augmenté là dernièrement. Donc il y a eu l'effet un peu surprise dès le lendemain matin, et puis à nouveau là cette semaine. Donc si ça augmente pas en Allemagne, ça stabilise et chez nous ça augmente, c'est clairement il y a un effet. Après, est-ce que les banques vont répercuter sur les taux du particulier ce qu'ils vont avoir eux pour emprunter de l'argent? C'est ça, parce qu'en fait, comme il y a moins d'acheteurs, ils sont aussi à la course au dossier.
Mais est-ce que, par exemple, là, Céline, on pourrait dire à nos auditeurs et téléspectateurs, si vous avez un projet, dépêchez-vous un tout petit peu, parce que quand même, cette incertitude...
Nous, c'est ce qu'on a ressenti sur nos sites dès le lendemain, en fait, paradoxalement. C'est que le lendemain, on a eu un frémissement. Alors, on est sur des volumes très faibles en ce moment, faut pas se le cacher. Dans le neuf, c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, on a eu un petit frémissement. Et parce qu'on a commencé à dire, les taux vont remonter. Alors, est-ce que certains ne se sont pas dit, allez, c'est peut-être la fenêtre de tir?
Est-ce qu'on peut avoir une logique intraday, un peu comme les traders, si on est investisseur immobilier actuellement, et se dire, OK, là, j'ai une fenêtre de tir de 10 jours? J'y vais.
C'est quand même court, parce qu'il faut trouver le bon produit, etc. Mais de toute façon, notamment dans le neuf, il y a de quoi, il y a des opportunités à saisir.
Il y a des queues de programme, là.
Il y a des queues de programme, il y a des offres commerciales à saisir. Les promoteurs, effectivement, ont des choses à vendre en ce moment. Donc, il faut en profiter. Il y a des frais de notaire offerts, mais on nous parle même de garages et de places de stationnement offerts. Donc, oui, il faut en profiter. Enfin, moi, je pense que c'est le bon moment. Et puis, il y a la fenêtre de tir du Pinel aussi, qui va s'arrêter à la fin de l'année. Et ça, à mon avis, c'est oui, il faut en profiter parce qu'on sait justement, on sait pas trop ce que sera l'avenir.
Donc, justement, dans cette attitude, un tout petit peu, alors là, Céline nous disait qu'effectivement, ils avaient vu quand même un petit sursaut de recherche à l'annonce de la dissolution. Il y a d'autres choses qui émergent face à cette incertitude politique et cette crainte pour l'après. C'est vous, Guillaume, au Figaro, qui avez relevé ces fameuses clauses un peu nouvelles qu'on voit apparaître sur les actes de vente. C'est quoi exactement?
Pour ceux qu'on connu, en fait, c'était ce qui s'était passé en 1981.
Moi, j'étais pas née.
Voilà. Mais on va rappeler, et je pense que certains auditeurs peut-être s'en souviendront, les fameux chars russes qui étaient censés défiler à Paris. Et donc, du coup, les propriétaires en panique disent, bon, moi, je vais prendre mes affaires et je vais aller en Suisse ou je ne sais où. Aujourd'hui, il y a une espèce de panique qui peut y avoir chez certains acheteurs, propriétaires. En gros, c'est un notaire qui raconte avoir été contacté par un client qui dit que en 80, il a mis une clause dans la promesse de vente pour dire si jamais là aujourd'hui le nouveau Front populaire
à l'époque c'était François Mitterrand,
à l'époque c'était François Mitterrand, et du coup je veux que la transaction soit annulée. Alors, se pose la question déjà, est-ce que c'est légal ?
Bah, question qu'on vous pose, Guillaume, est-ce que c'est légal ?
Eh ben alors, je vais employer, mais je vais rapidement l'expliquer, un terme un peu technique. Une clause suspensive ne doit pas être potestative.
Comment ?
Quoi ? Ça, voilà.
Est-ce qu'on peut l'épeler pour ceux qui nous écoutent à la radio ?
Elle ne doit pas dépendre ni du vendeur, ni de l'acheteur. Prenons l'exemple du crédit.
Ouais.
Une clause suspensive d'obtention de crédit. Même si l'acheteur doit monter un dossier solide, donc il y a une forme de responsabilité de sa part, c'est quand même la banque qui décide
ouais.
du taux. Bon, et ben là, même chose. Ok, d'accord, le vendeur et l'acheteur sont des électeurs, donc ils ont une voix, mais c'est deux voix qui sont diluées parmi des millions. Donc on ne peut pas considérer que dans une élection politique...
Donc on peut, êtes en train de dire, Guillaume, qu'on peut effectivement, légalement, faire figurer une condition suspensive.
À condition, ça c'est très important, évidemment, que le vendeur accepte. Parce que si le vendeur n'est pas d'accord, cette clause est considérée comme nulle. Une clause suspensive n'est légale que si
elle est acceptée par les deux parties.
Acceptée par les deux parties.
Il accepte à ce moment où il signe.
Bah, exactement, oui. À partir du moment où du coup... Bon, là, j'ai recontacté du coup le notaire. Il se trouve que, en fait, la transaction est en stand-by. J'ai eu également...
En attente, en bon français. Parce que vous ne pouvez pas nous apprendre le mot potestatif et derrière dire en stand-by.
En attente. Et donc, d'autres réseaux, j'en citerai un, notamment Barnes, qui nous a dit qu'à Marseille, il y a également deux acheteurs qui ont demandé à ce que cette clause soit insérée. Donc, on sent que ça reste très isolé, des cas isolés. Mais on sent quand même qu'il y a une forme peut-être de panique chez certains.
Guillaume, le profil des acheteurs, je pense, vous citez Barnes, donc on imagine que c'est des biens quand même plutôt type...
Généralement, c'est des profils de... Alors, ils nous l'ont pas dit comme ça, mais bon, on va dire que c'est des...
Est-ce que c'est des étrangers ?
Non, c'est des Français, c'est des seniors qui ont du patrimoine. Voilà. Alors après, ils nous ont pas dit est-ce que c'est la résidence principale ou à la résidence secondaire. Non. Voilà, c'est à peu près le profil.
Mais on est plutôt sur un marché haut de gamme, c'est-à-dire que le commun des mortels ne se pose pas forcément la question de mettre une clause suspensive.
Mais peut-être qu'il devrait
les élections.
Alors certains, c'est amusant parce que au sein des notaires, il y a quand même certains qui vont vous dire est-ce qu'on doit répondre à, je les cite, répondre aux caprices que fantasquent des gens.
Exactement.
Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a caprice et caprice. Maintenant, chacun se fera son idée. Est-ce que l'arrivée d'un parti extrême au pouvoir est considérée comme un caprice ? Enfin, d'anticiper cette arrivée, est-ce que c'est un caprice ou pas ? Ça, c'est à chacun de se faire son opinion.
Est-ce que caprice, c'est le bon mot ? Si on reprend le couple dont vous parlez, enfin les gens dont vous parlez qui sont des retraités, peut-être qui ont épargné toute leur vie pour acheter le bien où ils vont finir leur vie, c'est pas vraiment un caprice. C'est quand même la réalisation d'une vie.
Oui. Ouais. Alors après, il faudra qu'on regarde aussi dans cette émission si véritablement, quels que soient les blocs politiques en présence, ça pourrait bouleverser la donne.
Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un vrai sujet. Il faut justifier la question de l'inquiétude aussi.
Parlons du neuf.
Parlons du neuf, parce que quand même, on a Céline, et moi, ça me fait tellement plaisir. Bon, là, du coup, on va un peu déchanter. On en est où de ce marché du neuf qu'on a beaucoup dit, j'ai envie de dire moribond, mais bon.
Vous, surtout.
Non, mais je ne suis pas la seule. Je pense qu'on va le voir avec Céline. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Hier, il y avait le congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers qui se tenait près de Lille.
Et vous y étiez?
J'y étais. J'ai mené l'enquête, et effectivement, c'était plutôt morose, comme on peut s'en douter. De toute façon, le thème du congrès, ça s'appelait déjà urgence logement, et ça avant même l'annonce de la dissolution surprise. Donc forcément, l'état d'esprit n'était pas au beau fixe avant de commencer. Autant vous dire que c'était très compliqué hier, dans le sens où la demande a disparu. Il faut quand même rappeler que les besoins sont toujours là. On a toujours besoin de loger les Français. Donc, y a clairement une question de confiance qui se pose pour que, notamment, des investisseurs reviennent sur le marché. Il faut rappeler le contexte. L'année 2023, c'était la pire année qu'a connue la promotion immobilière depuis que les statistiques existent. Et en ce début d'année, sur les 5 premiers mois de l'année, on a déjà perdu 25% de ventes encore en plus par rapport à l'année dernière qui était déjà catastrophique. Donc forcément, les promoteurs étaient plus qu'inquiets.
Là, justement, par rapport à cette inquiétude, je voudrais parler, alors évidemment, de l'absence d'offres, de fait aussi, de la difficulté de trouver une demande finançable. Maintenant, on en est où de tous les corps de métier liés à ce logement neuf ? Vous parliez des promoteurs. Où est-ce qu'on en est du côté de la santé économique des promoteurs et de tous les métiers qui sont liés finalement à la construction de logements neufs, je pense aux artisans, mais pas que. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Parce qu'on a beaucoup dit que c'était quand même un risque énorme, considérable sur l'emploi en France.
C'est le cas, puisque les promoteurs, certains vous annoncent, déjà il y a des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été lancés chez la plupart des grands promoteurs
nationaux. C'est ça, même les géants ne sont pas du tout épargnés. quoi.
Clairement non, peut-être même peut-être plus que d'autres qui ont peut-être plus ont peut-être des petites structures ont peut-être les reins peut-être paradoxalement plus solides. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que on nous annonce entre 10 voire 35% de réduction des effectifs chez les promoteurs. Donc 10% c'est le minimum et puis ça peut aller beaucoup plus, sans parler de ceux qui ont mis déjà la clé sous la porte. Alors finalement pas tant que ça. Pas tant que ça par rapport peut-être à certains qui pensaient, notamment au plus haut sommet de l'État, que ça allait épurer, que ça allait réduire le nombre de promoteurs. Finalement, vu la crise qu'ils traversent, parce que quand l'année dernière ils ont perdu la moitié de leurs ventes et à nouveau 25% cette année, on aurait pu imaginer quelle entreprise peut résister à ça. Eh bien, ils résistent, ils font le dos rond, on va dire, pour l'instant. La question, c'est jusqu'à quand.
Et puis, c'est un peu moins vrai pour les constructeurs de maisons, d'un mot quand même.
Les constructeurs de maisons, ils ont quand même perdu aussi la moitié de leurs ventes l'année dernière. Ça va pas bien non plus, et on va être à peu près, on est à peu près sur une année glissante à 60 000 maisons quand les belles années, on en vendait, on en construisait du coup 120 000.
Ah oui, parce qu'on se souvient pendant le Covid, c'était vraiment la vedette la maison individuelle, et c'est le rêve des Français, de 75 à 80% des Français. Aujourd'hui, quand on interroge les professionnels, des maisons à 350-400 qui il y a deux ans partaient très rapidement, aujourd'hui, comme on sait que le marché, c'est un marché acheteur, les gens prennent leur temps parce qu'ils savent aussi qu'ils ont plus de choix. Donc c'est vrai que même la maison, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'au Figaro, dès qu'on fait des articles, quel que soit le profil et l'actualité, c'est impressionnant les réactions, les inquiétudes que ça peut avoir.
Sur des articles sur quoi précisément?
Sur les maisons, la maison individuelle. Ouais. Comment dirais-je, l'avenir pour ces maisons, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de rêves. Il y a quelques semaines ou quelques mois, Gabriel Attal, Premier ministre, parlait du fameux rêve du pavillon à la française qu'on veut relancer, etc. etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, les gens ont envie de ça. Maintenant, quelle proposition, quelle solution les différents partis leur proposent? Ça, c'est
un super teasing qui nous fait Guillaume, parce que justement dans la deuxième partie d'émission, on va commencer à rentrer dans le dur de ce que nous proposent les politiques aujourd'hui, et on démarrera justement par tout ce qui pourrait impacter les acteurs au sens large du logement neuf. Donc je vous propose de rester à l'écoute de la suite de nos débats.
Parfait timing pour partir en publicité. Vous restez avec nous. Quand vous revenez, Guillaume Erard du Figaro sera là, Céline Coletto de trouverunlogementneuf.com aussi, et puis Marie et moi. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
C'est vendredi, les expertes réunis pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. On est avec Céline Coletto, journaliste sur le site trouverunlogementneuf.com, et Marie Cœur de Roi, bien sûr. On parle du neuf. On va s'intéresser, au-delà du neuf, à la politique et aux propositions des différents partis pour dynamiser, insuffler une nouvelle vie. Ouais. Faire bouger le secteur. Marie, vous allez être notre Miss Météo de la politique et nous lister les différentes idées inventive, pour alors, le moins, des différents partis.
Chose promise, chose due, on va d'abord s'intéresser à ce qui pourrait toucher, bouleverser, impacter, je ne sais pas comment le dire, le secteur du neuf au sens large. Donc, je les égrène rapidement et vous allez me dire, chacun d'entre vous, Guillaume, Céline, ce qui vous inspire le plus, que vous pensez comme étant le plus impactant positivement, pas d'ailleurs pour le secteur. Remise en cause du zéro artificialisation nette pour le Rassemblement National. Remise en cause toujours pour le RN, du calendrier passoire thermique. Accélération des rénovations pour la majorité sortante. On nous promet 300 000 logements rénovés de plus. Renforcement des aides à la rénovation pour la gauche, avec un zéro reste à charge pour les ménages les plus modestes. Et puis, on a aussi du côté de la gauche un prêt à taux zéro renforcé et un prêt à taux zéro de 100 000 euros pour le Rassemblement National. Toutes ces mesures-là peuvent de près ou de loin avoir un impact sur notre secteur du neuf. Lesquelles vous paraissent les plus importantes, quoi que vous en pensiez aujourd'hui?
Tout ce qui peut relancer la demande, sur le principe, c'est très bien, puisque c'est ce qui manque aujourd'hui au secteur. Après, bon déjà, il faudra savoir quelles sont les précisions, hein, parce que par exemple, sur du PTZ, tout le monde en parle, mais on n'a encore pas de ciblage, on ne sait pas à qui ça va s'adresser. On peut imaginer, parfois on évoque que le PTZ a un certain effet inflationniste, donc il faut savoir, effectivement, là, il faudra que ça soit très bien ciblé, et puis se dire que quand c'est dans le neuf, un prêt à taux zéro, ça permet de créer un logement aux dernières normes environnementales, avec des factures énergétiques réduites pour la personne qui va l'occuper. compliquée. Et puis, une valeur verte en plus sur l'avenir, par rapport effectivement à une passoire thermique. Et puis aussi de se dire que bah, si c'est bien ciblé, un logement neuf, ça permet de créer des recettes, ça crée de l'emploi, parce que c'est des non délocalisables. Donc un logement, c'est deux emplois créés sur 18 mois. C'est pas rien. Et ensuite, eh bien, ça crée de la rentrée de TVA, ça crée des taxes foncières pour la collectivité qui le construit. Donc c'est, on va dire, peut-être un bonus, moi, sur le PTZ dans le neuf. Guillaume ?
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Céline. Après, si on regarde donc, la question des passoires thermiques, on le sait très bien. Hein, dans
le calendrier.
Il
ne
faut pas oublier, dans 6 mois, c'est le début. Alors, il y a déjà les pires passoires thermiques qui sont interdites à la location, mais là, l'ensemble DG, donc c'est à partir du 1er janvier 2025. On sait que ça crispe énormément les professionnels parce que, selon eux, ça assèche le marché locatif. Il va falloir voir, encore une fois, si jamais, est-ce que déjà c'est une suppression ? Est-ce que c'est un allègement ? Si c'est un allègement, c'est quoi les conditions ? Je rejoins Céline, pour le coup, c'est très flou pour l'instant. Mais bon, encore une fois, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est crispant. Et puis, au-delà de l'enjeu écologique qui est majeur, il y a aussi l'enjeu de loger les gens. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les jeunes, ils ont ce souci-là. Leur premier réflexe, c'est se loger.
Donc, pardon Guillaume, je vais mettre les pieds dans le plat. Ouais. Donc vous dites, quitte à, comme on est tellement en pénurie de logements à louer, bah, pourquoi pas remettre ou garder des passoires thermiques à la location, contrairement à ce que prévoyait le projet de loi climat et résilience.
C'est vrai que le calendrier peut paraître intenable. Maintenant, à un moment donné, il va falloir y aller. Parce que si c'est pour reculer pour mieux sauter, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut trouver un juste milieu. Parce que c'est vrai que quand ils ont lancé cette fameuse loi climat et résilience, il n'y avait pas ce problème sur le marché locatif. Là, clairement, aujourd'hui, on a un vrai problème qui est majeur.
Oui, je pense qu'il y était déjà, mais je pense qu'il faut aussi se mettre, alors, du côté du propriétaire bailleur qui n'a pas fait les travaux, lui se dit effectivement, banco. Par contre, le propriétaire qui lui a joué le jeu, qui avait peut-être une passoire thermique et qui a fait des travaux pour être dans les clous, pour pouvoir continuer à louer à partir du 1er janvier, il peut être un petit peu énervé si on lui dit bah, finalement le calendrier il est repoussé.
Et puis
le locataire surtout. Le locataire qui aujourd'hui vit dans une passoire thermique et une passoire énergétique et qui a froid l'hiver, qui a chaud l'été et puis qui en même temps, à des factures énergétiques énormes. Donc, il faut savoir aussi, on sait qu'il y a des millions de gens en France qui sont mal logés, et c'est, entre guillemets, à cause de ces passoires énergétiques. Donc, il faut trouver le juste milieu, c'est sûr. En tout cas, on le sait, on est tous comme ça, on travaille tous dans l'urgence. On a l'habitude, en tout cas. Donc, le propriétaire, il a peut-être attendu le dernier moment. Peut-être qu'aujourd'hui, le calendrier, il n'est pas tenable. Mais il faut se dire que un calendrier, ça force des gens à faire des travaux. Donc, promettre qu'on va repousser le calendrier, c'est peut-être un petit peu décevant pour ceux qui ont joué le jeu et puis surtout pour ceux qui habitent ces logements-là.
Et justement, je m'adresse à tous les deux par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je suis propriétaire bailleur, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Qu'est-ce que je fais compte tenu de ce contexte-là et de cette proposition du Rassemblement national ? Est-ce que vraiment je dois continuer, si par exemple j'avais le projet de faire les travaux ? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui avaient l'intention de le faire ? Attendez ?
C'est vrai que jusque...
Non, parce qu'après, c'est votre patrimoine aussi. C'est votre patrimoine. Vous parlez de patrimoine ici toute la journée. Non, c'est votre patrimoine.
Sauf qu'aujourd'hui, jusqu'à cette dissolution, il y avait une vraie tendance qui était les propriétaires préféraient vendre plutôt que de faire les travaux. Alors après, à charge pour les acheteurs de le faire, et c'est ce que le gouvernement comptait là-dessus pour justement développer
faire de la rénovation
des bâtiments. Mais clairement, aujourd'hui, la tendance, c'est... Je ne sais pas si elle s'est confirmée encore là, mais avant ce contexte, c'était vraiment clairement les gens préféraient.
On levait le pied aussi parce que les aides n'étaient pas lisibles. Soyons honnêtes, Guillaume, les aides étaient peu lisibles. Elles changeaient toutes les 3 semaines, tout comme le DPE. À un moment donné, on nous a dit on finance que les rénos globales en début d'année, puis on est revenu parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en fait, c'est peut-être plus simple d'y aller petit à petit et de commencer par de ce qu'on a appelé le monogeste, geste par geste.
Il faudra peut-être se pencher aussi à un moment donné sur MaPrimeRénov', parce que les allers-retours incessants, je me mets à la place de ceux qui justement veulent faire des travaux. Un coup on nous dit il faut faire de la rénovation globale, sauf que on n'a pas assez d'aide. Et puis on dit finalement les monogestes vont pouvoir être éligibles à MaPrimeRénov'. Donc je me mets à la place des professionnels. Ils recrutent
ils font des devis et après on leur dit ça.
Ils recrutent pour faire plus de rénovation globale et en fait on veut. Donc c'est un flou total et je pense qu'à un moment donné ce serait bien qu'on et je trouve dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de mesures sur MaPrimeRénov'.
On a un auditeur fidèle qu'on salue, François du côté de la Nouvelle-Aquitaine de Niort, si je ne dis pas de bêtises, qui nous a envoyé une liste d'idées. Enfin plutôt
François,
une liste.
Premier ministre.
Ouais. Bah déjà ministre du logement.
Ministre du logement, ça serait bien parce que c'est ce dont on a besoin.
Hein. François nous écrit régulièrement, merci François. Il veut remettre le logement à la place centrale qui lui est due. Il a plein d'idées. Il nous a listé un long mail. Et concernant la rénovation et la réhabilitation, il a des idées qui sont un peu en ligne avec ce qu'on est en train de se dire. Il voudrait interdire à tous les bailleurs la possibilité de donner un congé pour vendre son bien quand le locataire est toujours présent. Lui proposer des solutions donnant gagnantes pour qu'il reste et améliore le logement si le bailleur est frileux pour rénover. Et lui proposer de racheter le bien en ayant diminué les loyers déjà versés pour les primo-accédants. Moi, je trouve ça intéressant.
Ouais, une sorte de leasing, là, c'est ce qu'il propose. Après, interdire la possibilité de donner congé à son locataire.
Non, je crois pas que ce
c'est
soit
pas
trop possible.
Demain la veille, mais.
C'est toujours la problématique des travaux. C'est-à-dire que quand t'as des travaux à faire, c'est difficile de les faire avec le
locataire en place. Alors après, ça dépend. Hein. Moi, je salue Hassan Mouab qui vient régulièrement sur l'antenne diagnostiqueur et qui sait de quoi il parle et qui nous dit quand même qu'il y a des possibilités de faire quand même pas mal de travaux en présence de l'occupant, que ce soit locataire ou propriétaire. Tout dépend de la surface et des travaux qu'on va faire. Mais effectivement, le sujet de la rénovation, ça me permet de rebondir. J'avais pas prévu cet ordre-là, mais en fait, on va le faire, puisqu'on parle du marché locatif. Alors, je vais pas refaire mon coup de gueule que je fais quasiment quotidiennement, mais quand même, en dehors de ces sujets de passoire, est-ce que vous avez eu beaucoup de propositions de nos différents blocs politiques sur ce marché locatif qui traverse pourtant une crise historique? Je m'adresse à vous.
C'est pour ça qu'il faut construire du logement neuf, parce que en fait les logements vacants qui existent, ils sont dans la diagonale du vide, là où personne ne veut habiter. C'est le dialogue, c'est le discours en tout cas de la Fédération des promoteurs immobiliers, clairement, parce que aujourd'hui il faut des logements dans les grandes métropoles, dans les zones touristiques, etc., et qu'aujourd'hui on n'en construit pas, on n'en construit plus, on n'en met plus en vente. Hier, une petite indiscrétion, un très gros promoteur français qui aurait enlevé de la vente 11 200 logements. C'est-à-dire des projets qui étaient prêts, qui étaient commercialisés. Il arrête les projets, en fait. Il n'y a pas de demande en ce moment. Donc, il n'y a pas de choix. Il n'y a personne pour acheter. Donc, ça leur permet de déstocker les programmes qu'ils ont déjà. Et puis, ils attendront que ça reparte. Mais ils sont même pas sûrs que ça reparte au niveau des belles années qu'on a pu connaître, 2017, etc. Donc, ils ont mis clairement le frein sur le logement. Donc, c'est quand même très grave pour notre pays, parce que on est supposé construire 500 000 logements neufs par an en France pour renouveler le parc.
On est à quoi, à 280 000?
On va être à 280 000, mais ça veut dire que derrière, il n'y a pas de logements sociaux, il n'y a pas d'accession à la propriété sociale, etc. Donc, en dehors du métier de promoteur qui vit des heures difficiles, c'est le logement des Français, hein. Donc c'est ça qui est important à avoir en tête.
Ouais, et puis il y a ce mea culpa du président de la République qui nous dit qu'ils en ont pas fait assez sur l'accès au logement des jeunes. C'est vrai que accès au logement, on pense plus à l'acquisition qu'au locatif.
Il a dit logement étudiant.
Ouais.
Logement tout court aurait suffi à mon sens, mais enfin.
En tout cas, derrière, deux jours après, même si en interne au Figaro, on nous a dit qu'ils étaient dessus depuis 3 mois, je pense que c'était surtout une réponse au mea culpa d'Emmanuel Macron. On nous annonce donc, pour les primo-accédants, plus de frais de notaire. Alors, j'explique très très rapidement parce que c'était vraiment pas clair du tout. En gros, aujourd'hui, vous serez éligible selon votre revenu fiscal de référence, qui serait, ça n'a pas été encore fixé, mais le plafond avoisinerait les 4 000 euros.
4 000 euros de revenus par mois net.
C'est ça. Revenu fiscal, voilà.
Fiscal, oui.
Exactement. En gros, après, si vous cochez cette case, après, il y a le pivot du prix. Si votre logement coûte moins que 250 000 euros, vous avez zéro frais de notaire. Alors, il faut dire exactement droit de mutation, parce que sinon, les notaires ne vont pas être contents.
Mais c'est vrai, les pauvres.
Voilà. En gros, c'est évidemment pas du tout question de toucher aux émoluments des notaires, c'est la part qui revient à l'État et aux collectivités locales.
En gros, c'est 5,89% précisément, voilà, de ce que vous payez sur un bien immobilier.
Donc, on fait à peu près, au max, si on prend ces 250 000, quelque chose comme 15 000 euros, à peu près, d'économie. Si c'est au-dessus de 250 000, le surplus, par exemple, vous achetez un logement à 300 000, vous serez exonéré des frais de notaire sur les 50 000. Bon.
Sur les 250 000 ?
Non.
Non. Si vous achetez un bien à 300...
Je ne paierai que sur 50 000. Que sur 50 000, voilà.
La question, c'est de savoir, ces économies, est-ce que les vendeurs vont le répercuter sur les prix ?
L'effet inflationniste.
Donc, est-ce qu'il y aura... Alors, on nous explique que, a priori non, parce que les vendeurs ne seront pas au courant qu'en face
d'eux,
ils auront un primo-accédant qui sera éligible. Donc là aussi, il faut voir. Mais bon...
Il y a quand même un autre sujet sur les finances locales, parce qu'on rappelle que les notaires doivent, qui collectent ces frais de notaire et donc ces droits de mutation qui vont aux collectivités locales, ils versent dans le mois l'argent aux départements et aux communes concernées. On rappelle que l'État n'est pas forcément le meilleur payeur de France et que tout comme ils avaient promis de rembourser les collectivités à l'euro près sur la taxe d'habitation,
les départements sont
en fait parce que là on propose que ce soit effectivement cette exonération de frais de notaire, et c'est de l'argent qui revient normalement au département principalement, il faut le dire. Donc ça veut dire que c'est l'État qui fait une mesure qui en fait c'est pas de l'argent qui lui rapporte à lui, donc peut-être un petit peu facile, mais tout ce qui est bon pour relancer la demande, je pense, sera bon à prendre, parce que là on est dans le dur, les Français ne peuvent plus acheter, donc il faut les soutenir.
Je vous aime très fort, mais au départ je voulais parler du marché locatif et pas de l'accès à la propriété,
mais en fait ça en découle.
Non, bien sûr, mais enfin quand même je reste
la harpie locative,
oui c'est ça, la harpie locataire. Spéciale dédicace à une tweeteuse.
Si tu as des gens qui peuvent acheter et qui après mettent en location, bah du coup ça alimente
le marché locatif. Non mais d'accord, mais on a quand même aucune annonce du côté du Rassemblement National ou de la majorité sortante concernant le marché locatif, que ce soit au niveau des loyers, que ce soit au niveau des bailleurs sociaux qui sont dans une situation gravissime pour produire du logement social, à part la gauche. Donc je voudrais vous faire réagir sur les propositions du nouveau Front Populaire sur le sujet, et au menu notamment, une hausse de 10% des APL. Vous avez également un encadrement des loyers dans toutes les zones tendues, la création d'une vraie garantie universelle des loyers. Et sur le logement social, vous avez la suppression de ce qu'on appelle la RLS, la réduction du loyer de solidarité, qui réduit la trésorerie des bailleurs sociaux depuis 2018 d'environ 1,2 milliard d'euros chaque année. Ceci étant dit, qu'en pensez-vous ?
Après, c'est des mesures, ça coûte de l'argent et on sait que le budget de l'État est contraint, donc c'est des choix qui sont faits.
Mais est-ce qu'il faut aider davantage les locataires, par exemple ? C'est la question que je vous pose.
Est-ce qu'il faut aider plus les locataires ? Certains vous diraient que non, parce qu'il y a des effets inflationnistes sur les APL, notamment. Après, si le logement coûtait moins cher parce qu'il y avait assez de logements en France, il n'y aurait pas besoin d'aider les locataires, en fait. Si on payait le juste prix, entre guillemets, du loyer, parce qu'il y avait... Pourquoi les loyers sont chers dans les zones tendues ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de logements. S'il y avait assez de logements et qu'on avait le choix, voilà. Et il n'y aurait pas non plus de passoire énergétique, parce que du coup, le propriétaire, il serait de fait obligé de faire du logement, de faire des travaux. Là, il a le choix, en fait. Il n'a pas besoin de faire les travaux et il a des gens et à qui il loue des choses chères. Donc, après, voilà, il y a des gens. Il y a des investisseurs bailleurs qui font le choix d'acheter dans le neuf. C'est vrai que c'est plus cher à l'achat, mais derrière, vous avez un logement aux dernières normes. Vous avez des factures énergétiques réduites pour votre locataire. Donc, c'est un choix qui est fait.
Oui, mais vous avez aussi une baisse des loyers. Typiquement, le Pinel qui va disparaître. Le Pinel,
c'est du loyer plafonné.
Vous imposez de pratiquer des loyers environ 15%.
Justement, c'est plutôt responsable comme
Donc,
comme
baisser principe. Les loyers ou alors aider davantage au paiement des loyers. Guillaume, je me retourne vers vous. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une solution à la crise historique que traverse le logement et nos étudiants qui vont peiner à se loger de nouveau cette année au mois de septembre?
La solution de l'encadrement des loyers, moi ça me fait penser à l'élargissement, ça me fait penser encore une fois à la politique que voulait mettre en place le précédent ministre Patrice Vergriet et cette politique de décentralisation. En gros aujourd'hui, avant c'était l'État qui décidait si une ville pouvait encadrer ou pas les loyers. Là cette politique c'était de dire au contraire on laisse la main au maire. Bon, je trouve que c'est une bonne idée dans la mesure où c'est les vrais acteurs du marché et ils constatent ou pas une tension sur le marché locatif. Est-ce que ça mérite ou pas d'encadrer les loyers ? Après, il y a toujours ce complément de loyer, donc qui permet encore une fois. Aux propriétaires d'augmenter plus que le plafond à partir du moment où il y a une situation, une localisation exceptionnelle, une vue magnifique.
Quand on fait du meublé, ça, on est d'accord.
Quand on fait du meublé. Donc,
c'est bien le problème, hein. On fait trop de meublé et pas assez de location nue, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Absence totale. Total de changement d'ordre fiscal.
De toute façon, le logement,
inciter davantage
on en parle plus, on en parle tous les jours, on fait tous des sujets tous les jours. Ça n'empêche pas que même si les promoteurs avaient l'air de dire on parle enfin du logement, parce que c'était encore pire à la précédente campagne présidentielle et législative, il faut quand même dire que c'est le nerf de la guerre, en fait. Être bien logé, avoir un toit sur la tête, c'est on devrait en parler beaucoup plus. Ça devrait être le thème central de cette campagne, en fait.
On avait prévu de parler d'autre chose, on avait prévu de parler d'innovation. d'innovation de promoteurs, notamment à Montpellier. Il nous reste 1 minute 30.
Oui, bah en fait,
une minute pour nous toucher un mot sur les innovations et finir de
allez, ça marche. Les promoteurs, ils ont terminé leur congrès hier en disant restons fiers d'être promoteurs. Et effectivement, il y a des collectivités qui jouent le jeu, notamment la métropole de Montpellier, qui a lancé des folies architecturales, des projets d'envergure, et puis des promoteurs qui jouent le jeu derrière. Quand ça se rend compte, il faut le dire. Et on a effectivement des promoteurs. Alors là, par exemple, une des folies qui vient d'être entre guillemets un peu dévoilée, et ben c'est la folie Oasis, donc du promoteur Sogeprom Pragma, qui est une deux tours. Voilà, bah, vous voyez les images.
Ceux qui nous suivent en écran, ça, ouais, on les voit.
C'est quand même des projets architecturaux qui sont exceptionnels. C'est du bambou sur les terrasses, donc c'est un matériau biosourcé. Et ouais, en fait, la décision qui a été prise, c'est de faire de très grandes terrasses qui nous ont tant manqué pendant le confinement. Et voilà, c'est vraiment très innovant. Il y a du logement abordable.
Et donc ça, c'est à Montpellier, ça, c'est.
Ça, c'est à Montpellier.
Et ça, c'est des projets.
Alors non, là ça vient d'être lancé commercialement, le permis de construire est en attente, mais c'est vraiment dans les tuyaux.
Et ça sortira de terre quand ?
C'est livraison été 2027, donc c'est tout proche. C'est voilà, et puis il faut le temps de construire ça. C'est des très grands logements. Il y a du logement abordable dans ces opérations. Le petit bâtiment, c'est du tertiaire. Donc voilà, c'est du mix. Il y a des terrasses partagées, il y a des choses comme ça, et il y a toute une réflexion qui est faite autour de comment construire en Méditerranée. Il y avait un autre projet aussi de Roxim, c'est des tours végétalisées, et donc des tours végétalisées à côté de l'hôtel de ville. Donc voilà, il faut en parler quand il y a des choses qui se font et qui sont pertinentes et qui sont innovantes
et qui sont belles. Si vous n'avez pas pu voir ces images, ce sont les folies à Montpellier.
Oui, alors là, c'est le projet Oasis, mais il y en a d'autres.
Projet Oasis à Montpellier.
Soyons fous.
Innovations immobilières. C'est déjà demain, si c'est disponible en 2027. Merci beaucoup.
Ça s'achète maintenant.
À tous les trois. Merci Céline Coletto, qui portait la voix du neuf. Journaliste à trouver, logementneuf.com. Et Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. Et vous, Marie, merci pour cette belle semaine d'information immobilière. On espère qu'on a pu vous apporter quelques éléments de réflexion. Toujours économique, n'est-ce pas ? Parce que nous ne sommes pas là pour parler de politique, mais d'économie, de réalisme économique. À suivre, pour ceux et celles qui trouvent et qui pensent que les cryptos sont des actifs comme les autres, eh bien restez branchés, parce qu'Amaury de Tonquédec arrive pour faire le point sur la semaine crypto. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans les cryptos, le Web3, la finance décentralisée, ce sont les objets de réflexion d'Amaury de Tonquédec. Bonjour Charles Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Journaliste crypto, BFM Business, aux manettes de Tout pour Investir. Merci pour cette belle semaine d'ailleurs Amaury. Nous avons deux actus en tête pour finir la semaine en crypto. On va parler de la possibilité, non pas d'une île, mais d'un ETF Solana aux États-Unis. Racontez-nous.
Alors, pour rappel, on a des ETF Bitcoin Spot qui sont listés aux États-Unis depuis la mi-janvier. Voilà, ça a été des flux historiques. Ça a cartonné, ça continue de cartonner. C'est ce qui a alimenté une bonne partie de la hausse du Bitcoin ces derniers mois. On a, il y a quelques jours, des ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés sur le principe. Ils vont être listés dans quelques jours, le 4 juillet peut-être. Donc, c'est très bientôt. Voilà,
dans des États-Unis.
Voilà, c'est ça. Est-ce un signe ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait être listé dès le 4 juillet sur les marchés et donc disponible. Et on a appris hier, grande nouvelle, aux alentours de 15h heure française, que VanEck, une des grosses sociétés de gestion américaine, a déposé une demande d'ETF pour la crypto Solana.
Qui est Solana ?
Solana, en fait, c'est une blockchain qui permet de faire plein de choses, qui a un token qui s'appelle le SOL, S-O-L, et ils aimeraient bien, enfin, en tout cas, la société de gestion VanEck a déposé une demande pour que cette crypto puisse avoir son ETF. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que c'est toujours pas tranché si c'est une commodities, une sécurité, si c'est un titre
même
financier.
Même débat que sur l'Ether.
Exactement. Sauf que pour l'Ether, c'est quand même plus... L'Ether avait quand même plus de chances d'être une considérée comme une commodities parce qu'elle est plus décentralisée. Solana, c'est moins décentralisé. Ça va se régler avec la SEC. Maintenant, tout bouge tellement vite. Tout est tellement politique aujourd'hui. On a les élections qui arrivent en novembre que, voilà, rien n'est impossible. En tout cas, il y a eu de la spéculation parce que dans la foulée, le cours du SOL a pris une dizaine de pourcents. Il y a aussi tout l'écosystème Solana qui a bondi et aussi beaucoup de memecoins. On a déjà parlé dans cette émission, Lorraine, qui sont basés sur cette blockchain, notamment des memecoins politiques au niveau de Trump et Biden notamment. On a eu un débat assez animé hier et donc on voit
animé ou pas, oui.
Oh, ça dépend comment on voit les choses.
Pré-mortem.
Voilà, c'est ça. En tout cas, il a été beaucoup commenté sur la forme, plus que sur le fond.
Voilà, la possibilité d'un ETF Solana. Le Solana qui se négocie autour de 145 dollars. Alors, on se parle un petit mot de Binance, cette plateforme d'échange crypto qui n'est plus numéro 1.
Alors, Binance, ils sont toujours numéro 1. Ils ont même voilà, c'est la plus grosse plateforme.
Ah oui, je vous dis n'importe quoi.
Ah, c'est Bybit.
Maintenant,
mais en même temps,
ils ont un gros concurrent,
voilà,
en
fait. Voilà, c'est ça. Non, en fait, Binance, ils restent numéro 1 largement. Voilà, ils ont actuellement 54% des parts de marché, donc c'est colossal. Mais derrière, c'était l'américain Coinbase, et maintenant, c'est plus Coinbase, c'est Bybit qui a 16% des parts de marché. Coinbase maintenant à 8%. Voilà le top 3 des plateformes. La raison pour laquelle Bybit grappille des parts de marché, c'est notamment les frais qui sont très compétitifs, hein, qui font partie des plus bas du secteur, et ils ont aussi une offre de produits dérivés qui est très dynamique et qui prend encore des parts de marché. Donc c'est pour ça que tout simplement la plateforme en elle-même derrière gagne des parts de marché. Et aussi, je le rappelle, on a eu une condamnation de CZ, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, en avril dernier, condamnation à 4 mois de prison ferme pour blanchiment d'argent, et ça a pas dû rassurer les investisseurs, certains investisseurs de Binance, qui ont préféré donc aller sur d'autres plateformes, ce qui a profité entre autres à Bybit.
Quelle nationalité Bybit?
Bybit, je sais pas, bonne question, je veux pas dire de bêtises.
On vous répondra.
C'est pas français en tout cas.
Parce que c'est compliqué, hein, c'est finalement, parce que en fonction du pays dans lequel vous êtes, peut-être ces entreprises ont une entité, par exemple française, donc vous pouvez ne pas avoir à ouvrir un compte à l'étranger.
C'est pas évident parce que Binance, à la base, c'est pas français, mais la filiale Binance France peut être considérée par rapport à la fiscalité en France par une entreprise française. Voilà, c'est un débat qui est pas totalement tranché. On posera la question à nos avocats d'ailleurs.
Les actus crypto, ça se passe tous les jours dans BFM Crypto, le club, à 15h avec vous, à Amaury Tonkelev, sauf le vendredi où c'est d'habitude Guillaume Sommerer, mais aujourd'hui notre Stéphane Pedrazzi qui sera aux manettes.
C'est compliqué. Hein.
Il faut suivre. voilà, on est en équipe. Bybit, c'est basé à Dubaï,
bon,
votre info.
Voilà.
Voyez, ils sont partout, même dans les cryptos maintenant, le Moyen-Orient. Sur cette considération de Madame Michu, Sandra Gandoin nous a rejoint. Bonjour,
bonjour Lorraine.
Vous êtes aux manettes d'avec vous dans quelques minutes. De quoi allez-vous parler aujourd'hui?
La vie en entreprise, comme tous les jours. On va essayer de répondre aux questions que vous nous posez sur notre adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Par exemple, comment organiser le contrôle d'un salarié en arrêt maladie, si vous avez un doute. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes codes et les mêmes solutions à l'expérience client et l'expérience collaborateur? Et puis, pourquoi intégrer un réseau féminin, notamment si on est dirigeante d'entreprise, quelles sont les raisons, comment ça va vous aider? On va répondre à ces questions et à toutes celles que vous voulez nous poser. Je rappelle donc l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. On est aussi en live sur LinkedIn et YouTube notamment.
Voilà, avec vous, c'est tous les jours dès midi. Pour nous, Tout pour investir, on sera de retour dès lundi en direct à 10h. On a prévu de parler du sentiment de marché de Julien Nebenzahl, notre senior advisor chez Advise, pour bien démarrer la semaine. Et puis lundi, on fera une spéciale small et mid cap. On se concentrera sur les petites et moyennes valeurs françaises, mais on débordera Europe et États-Unis avec l'ami Eric Lewin des publications Zagora et une autre experte qui sera avec nous. Voilà, le point sur les petites et moyennes entreprises qui... comment vivent-elles la crise? Comment miser dessus? Comment soutenir le tissu d'entreprise? Réponse lundi dans Tout pour investir. Très bon week-end sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.